met une pression très forte là, de vous rendre heureux et encore plus heureux. Et après Victor Hugo, c'est très très difficile évidemment de pouvoir essayer de vous toucher. En tout cas, je vais essayer de vous faire partager un peu le fruit de ma réflexion et de mon expérience sur cette question, y a-t-il un art de vivre ? Et qui touche évidemment très proche la question du bonheur. Je vais y venir un peu progressivement et peut-être que c'est important puisque Bernard Dubois parle du bonheur, d'expliciter un peu ce qu'on entend par ces mots plaisir, bonheur, joie, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de malentendus, on peut entendre ces mots de manière très diverse, et je voudrais peut-être commencer par en parler un petit peu pour savoir de quoi on parle, et puis après on essaiera de peut-être d'aller plus loin que la simple notion de bonheur pour parler un peu plus de la sagesse. Puisque pour moi, l'art de vivre, le plus important, c'est de tendre vers la sagesse. Et qu'est-ce que j'entends par la sagesse ? Alors déjà, la question qui nous préoccupe, c'est comment nous épanouir ? L'être humain, comme tous les êtres vivants, a besoin de s'épanouir. Il recherche un état de satisfaction. Le premier état de satisfaction que nous expérimentons tous, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est la satisfaction d'un besoin ou d'un désir. J'ai soif. Je bois, j'ai du plaisir. J'ai envie de regarder une bonne série que j'aime, je la regarde, j'ai du plaisir. J'ai un ami qui m'appelle, j'ai du plaisir. Et donc le plaisir, on en fait l'expérience quotidienne. Et ça commence avec son thé ou son café le matin, et puis ça se termine le soir avec des échanges avec nos proches, ou regarder encore une fois une émission qu'on aime, lire un poème de Victor Hugo. Moi je m'endors toujours en lisant de la poésie. Je trouve que c'est merveilleux, ça dissipe tous les nuages de la journée. Et ça permet de s'endormir avec le cœur en joie, parce que la poésie, moi, me réjouit beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup Victor Hugo. J'ai toujours les contemplations de Victor Hugo sur ma table de chevet, à côté du dernier livre de Christian Bobin, voilà, qui n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs. Parce que la dernière fois que je suis venu dans la région, je me souviens que je me suis arrêté au Creusot pour aller le voir là où il est. Et c'est un homme merveilleux et un poète que j'aime énormément. Donc tout ça pour vous dire que le plaisir, c'est notre expérience quotidienne de satisfaction. Sauf que le plaisir pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que le plaisir ne dure pas. J'ai soif, je bois, j'ai soif à nouveau. Et donc il demande d'être sans arrêt nourri. Je regarde un film, ça va bien, mais après, le plaisir ne dure pas longtemps. Et donc, on a tout le temps besoin de renouveler l'expérience de satisfaction liée au plaisir. Le deuxième problème, c'est que le plaisir est lié aux choses extérieures. Si je n'ai pas d'eau et que j'ai soif, je vais être terriblement mal. Si je n'ai aucun ami pour satisfaire mon besoin de relations amicales et sociales, je vais être malheureux. Donc, le plaisir est lié aux causes extérieures. Il est lié à des rencontres avec des aliments, avec des personnes, avec un paysage, un environnement. Et donc, c'est cet environnement qui va nous apporter du plaisir. Et puis, le troisième problème du plaisir, c'est que trop de plaisir peut tuer le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des plaisirs qui, finalement, si on en abuse, on ne va pas se sentir bien après. Donc, si vous buvez un petit coup de trop, vous risquez d'être malade pendant la nuit. Si vous mangez beaucoup trop, vous allez être malade pendant encore plus longtemps. Et on le voit très bien que les enfants qui se gavent de chocolat et de bonbons et de machin, c'est pas bon du tout pour la santé. Et donc effectivement, il faut faire attention, et c'est Épicure, le grand philosophe du plaisir, qui va nous dire attention, si on veut avoir un vrai plaisir plus durable, plus global, il faut le discerner, et il faut le modérer. Ce sont les deux expressions d'Épicure, il faut discerner le plaisir, c'est-à-dire savoir juger par l'intelligence, la phronesis en grec, c'est à l'intelligence pratique. On traduira ça par prudence en latin, prudentia. Cette intelligence pratique qui nous permet de savoir ce qui est bon pour nous. Et au contraire, de ne pas faire certains actes qui peuvent nous procurer un plaisir immédiat, mais beaucoup plus de désagréments dans le long terme. Et on connaît tous des gens qui cèdent à une pulsion immédiate et qui le regrettent toute leur vie. Ça s'appelle par exemple le syndrome DSK. Alors Épicure en parle dans la lettre à Ménécée, on a compris 2000 ans après ce que ça voulait dire. Et donc il y a des gens qui ils vont avoir un plaisir immédiat et toute leur vie est chamboulée à cause de ça, en négatif. Et donc le plaisir doit être discerné. Est-ce que le fait d'avoir tel plaisir est judicieux ou pas ? ce qui demande de la raison, ce qui demande de la volonté. Et puis le plaisir doit être modéré. Et donc modéré, ça veut dire qu'au fond, ce que je vous disais, trop de recherche d'abondance et de quantité peut nuire à la qualité. Et Épicure, c'est le grand philosophe de la qualité. C'est pas du tout le philosophe de la jouissance effrénée. Vous savez, on a l'image d'Épicure, comme il parle du plaisir, on se dit, c'est le philosophe du plaisir, ouais, c'est la bonne bouffe, quoi. Attention, la bonne, oui, mais pas la grande, c'est-à-dire pas trop. Et il nous dit, il vaut bien mieux manger avec peu d'amis, plutôt que beaucoup de gens, mais quelques amis qu'on aime beaucoup, quelques mets de qualité, mais pas en trop grande quantité, vaut mieux un verre de bon vin qu'une bouteille de vin moyen ou de mauvais vin, dans un jardin, plutôt que dans une salle des fêtes. Et on comprend tous. On préfère tous manger un bon bout de pain et de fromage de qualité avec quelques amis en faisant une randonnée que d'aller dans un banquet où souvent c'est bruyant et puis il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas forcément proches de nous et la nourriture n'est pas toujours bonne. Et donc finalement, c'est le philosophe de la qualité. Il faut discerner aussi la qualité. On pourrait dire qu'Épicure, c'est le philosophe de la modération et pas du tout de l'abondance, de la modération. Et la meilleure formule qui pourrait s'appliquer à Épicure, c'est celle que notre ami Pierre Rabhi a inventée, qui va venir bientôt, c'est la sobriété heureuse. C'est le philosophe de la sobriété heureuse. Et c'est important de parler du bonheur, parce qu'Épicure est à la recherche du bonheur. Et il va distinguer le plaisir du bonheur en nous disant, le plaisir, c'est ce que je vous disais, c'est une expérience quotidienne de satisfaction. Le bonheur, c'est un état plus global et plus durable. C'est un état d'être, le bonheur, ce n'est pas une émotion passagère. C'est un état plus global et plus durable qui survient et qui s'installe durablement parce que nous avons appris à modérer et à discerner le plaisir. Et je rajouterai à conscientiser le plaisir. Donc autrement dit, il nous dit le bonheur est supérieur au plaisir parce qu'il dure, à l'inverse du plaisir, mais le bonheur n'existe pas sans plaisir. Alors vous aviez des philosophes de l'Antiquité qui vous disaient si on veut être heureux, c'est-à-dire dans un état, encore une fois, plus global et durable de satisfaction, il faut éliminer le plaisir, parce que le plaisir est dangereux. C'était le cas de Speusippe, qui était le neveu de Platon, qui lui a succédé à l'Académie, et Épicure a réagi contre Speusippe en disant « c'est une idiotie, il n'y a pas de bonheur sans plaisir ». Mais le plaisir doit être modéré et discerné. Et je rajouterais, il le dit autrement, mais ça me paraît important d'insister là-dessus, il doit être aussi conscientisé. Parce que si on n'est pas présent et attentif à tous ces petits plaisirs du quotidien, on ne savoure pas le plaisir. Or, le bonheur vient de la conscientisation de tous ces petits moments heureux de la journée. Et c'est parce qu'on est présent et conscient à tous ces menus plaisirs que s'installe un état de satisfaction beaucoup plus global et durable. Et là, on touche à quelque chose de tout à fait essentiel dans la notion de bonheur, c'est la qualité de présence à ce qu'on fait. Et vous savez que c'est pas facile. On a toujours tendance à penser à autre chose, donc on est là, et puis on se rappelle quelque chose de la journée qu'on n'a pas fait. Et puis on pense à demain, il faudrait que je pense, j'ai un entretien avec mon patron, il faut que je dise ça. Et donc, on ne vit pas souvent dans l'instant présent. Alors, des fois, c'est nécessaire, attention, il ne faut pas avoir une tyrannie de l'instant présent. C'est nécessaire, des fois, de se projeter dans le futur. Ne serait-ce que pour organiser ses vacances, sa journée, etc. Oui, c'est nécessaire de se projeter. C'est nécessaire et c'est bon de se remémorer des moments du passé, pour en tirer des leçons, pour être capable, d'abord pour retrouver des moments agréables. Quand on lit l'œuvre de Proust, on voit à quel point l'imagination nous permet de retrouver des moments merveilleux du passé et de réactiver des sensations du passé, comme la fameuse Madeleine. On a tous nos Madeleines de Proust. On a tous des moments où on aime se réfugier dans des souvenirs qui nous permettent de revivre des moments heureux. Et d'ailleurs, Épicure, qui parle beaucoup de l'instant présent, nous dit qu'il y a une chose, une expérience dans laquelle il vaut mieux pas être trop présent dans l'instant, c'est si on est torturé. On comprend pourquoi. Il nous dit à ce moment-là, mieux vaut se remémorer un bon souvenir du passé. Ça aide à supporter la torture un peu mieux. Et il dit ça d'ailleurs très concrètement, parce qu'il était très malade à la fin de sa vie, qu'il a beaucoup souffert. Et il a écrit dans sa lettre à Ménécée, à son ami, que ce qui l'aide à supporter cette souffrance, ce sont les bons souvenirs des repas partagés dans son jardin, avec quelques amis. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je nuance l'instant présent. Oui, la mémoire du passé peut être très bonne aussi. Mais disons qu'il faut lutter contre cette tendance qu'on a à ruminer tout le temps, à être en train de se soucier d'un tas de choses qui fait qu'on n'est pas présent à ce qu'on fait. Et si le matin, quand vous vous levez, vous prenez votre douche, qui est un moment merveilleux, enfin moi j'adore l'eau, et donc avoir ce moment où l'eau nous tombe dessus et tout, je trouve que c'est un moment vraiment de sensualité. Mais si on pense déjà à autre chose, on ne le savoure pas. Et puis si après, quand vous prenez votre thé ou votre café, on aime tous ou le thé ou le café généralement, mais si au lieu d'être totalement présent à le déguster, à le ressentir comme si c'était la première fois, vous buviez du thé ou du café, dites-vous c'est la première fois, et vous savourez, vous dites c'est merveilleux que ça existe. Mais si au lieu de faire ça, vous êtes déjà en train de vous soucier, vous écoutez la radio, toutes les nouvelles et les catastrophes du monde, vous n'allez pas le savourer. Et puis si quand vous allez marcher, si vous avez la chance d'habiter à un quart d'heure à pied de votre bureau, et puis qu'il y a un magnifique rayon de lumière, si au lieu de le profiter, vous êtes en train de penser à votre feuille d'impôt que vous n'avez pas remplie, ben vous n'allez pas être heureux non plus. Et donc, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut vivre plein d'expériences qui pourraient nous donner du plaisir et de la satisfaction, et si on ne les conscientise pas, eh ben, il n'y a pas de plaisir et de satisfaction. Et c'est pour ça que la sagesse ancienne nous dit « Cueille le jour, carpe diem, Horace, vis dans l'instant présent. Le passé est passé, le futur n'est pas encore là, ton bonheur se construit dans l'instant présent. » Et c'est vrai, le plaisir et le bonheur, c'est dans l'instant. C'est la sensation de l'instant qu'il nous faut pleinement conscientiser et déguster. Donc, le bonheur, c'est savourer le plaisir, le faire durer, le conscientiser. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études scientifiques depuis 30 ans qui le confirment de manière magistrale. On fait des études sur le cerveau humain. Vous savez que la science du 21e siècle, c'est le cerveau humain. On a exploré l'univers, on a exploré l'atome au 20e siècle. Et qu'est-ce qu'on va explorer au 21e siècle? Le cerveau humain. C'est le continent inexploré. On sait très, très, très peu de choses sur le cerveau. Et les choses qu'on commence à découvrir sont passionnantes d'un point de vue philosophique. Moi, je m'intéresse beaucoup aux études sur le cerveau. Ça nous dit beaucoup de choses sur l'être humain. Et une des découvertes qu'on a fait il y a quelques décennies, c'est que vous savez que notre cerveau, enfin nos cerveaux, parce qu'il y a le cerveau de la tête, il y a le cerveau du ventre, produisent un certain nombre de substances chimiques qui produisent un effet de bien-être. Les plus connues sont la dopamine et la sérotonine. Et lorsqu'on produit de la dopamine et de la sérotonine, on se sent bien. Ça crée un bien-être, ça crée même de la joie de vivre, de la bonne humeur. Et on s'est posé la question, à quel moment les neurotransmetteurs vont transmettre dans le corps la dopamine et la sérotonine, qu'on utilise comme antidépresseurs. Parce que c'est à partir de ces substances qu'on a fait des antidépresseurs chimiques. Mais à la base, on les a en nous, ces antidépresseurs. Mais la question passionnante, à quel moment ils se diffusent dans le corps? Et les expériences qui ont été faites avec de l'imagerie cérébrale et des électrodes ont permis d'observer des centaines de sujets qui faisaient toutes sortes d'activités avec, sous imagerie cérébrale. Et on s'est rendu compte que le point commun qui fait qu'on va sécréter de la dopamine et de la sérotonine, c'est quand on est attentif à ce qu'on fait, quelle que soit l'expérience. Et donc que vous soyez en train de travailler, de lire, de regarder quelque chose, de parler à quelqu'un, si vous êtes parfaitement présent et attentif, vous pouvez sécréter de la dopamine et de la sérotonine. Mais chaque fois que vous faites plusieurs choses en même temps, chaque fois que vous avez le cerveau encombré par un tas d'idées, chaque fois que vous êtes dans une sorte de rumination, jamais vous n'allez sécréter de la dopamine et de la sérotonine. Et donc, il faut être totalement présent et attentif. Ce que les sportifs vivent très bien. Quand vous nagez longtemps en étant totalement présent à vos sensations corporelles ou quand vous courez, vous en sécrétez beaucoup. Alors que si vous courez en pensant à tous vos soucis, pas du tout. Et donc, on voit l'importance de l'attention. Et donc, je dirais que la première clé de l'art de vivre, c'est tout simplement d'être présent à ce qu'on fait. Présent à soi-même. Présent aux autres, présent au monde. Et si on faisait que ça, ça changerait totalement notre vie. Et j'ai la très très bonne nouvelle, alors je vais vous donner quelques très bonnes nouvelles ce soir. La très bonne nouvelle, c'est que c'est totalement gratuit. C'est incroyable. On peut changer sa vie en ne dépensant pas un euro de plus. Et on peut se pourrir la vie simplement en n'étant pas attentif à ce qu'on fait. Alors, je rajouterai quelque chose à l'attention, je rajouterai la gratitude. Parce que on a aussi tendance à se plaindre, surtout en France. Peut-être pas à Chalon-sur-Saône, non, bien sûr, vous êtes le maire, non ? Ah ben voilà. Vous défendez bien vos administrés. Donc, effectivement, mais partout ailleurs en France, les gens se plaignent. Alors là, vous allez découvrir la France, ça va vous surprendre, parce que vous êtes le village gaulois qui résistait. Mais partout ailleurs, les gens se plaignent. Ils ont la chance de vivre dans un pays merveilleux, qui est le plus visité au monde, qui a des paysages incroyables, qui a une nourriture formidable, des vins excellents, où il y a une sécurité sociale gratuite pour tous, où il y a des indemnités chômage, où il y a une école gratuite, où il y a des infrastructures qui nous permettent quand même de nous déplacer, des hôpitaux, etc. Et les gens sont malheureux. Qu'ils aillent vivre en Inde, qu'ils aillent vivre dans des pays où il n'y a pas de sécurité sociale, qu'ils aillent vivre dans des pays où il n'y a pas d'indemnité de chômage. Et là, on verra la comparaison. C'est un des pays où on a le plus de chances d'avoir cet équilibre entre la beauté des paysages, la culture, et puis un État qui prend encore en charge beaucoup de choses. Il y a quand même un système de solidarité, de redistribution qui fonctionne très bien en France. Et dans les pays où ça n'existe pas, ça peut être un paradis terrestre. J'étais à Bali récemment, et la personne qui vit à Bali me dit « Ici, il ne faut pas tomber malade, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. » Et donc, quand vous arrivez à l'hôpital, si vous avez été accidenté et tout, la première chose qu'on vous demande, c'est votre carte bleue. Quand vous êtes pauvre, on ne vous accepte pas. L'école est payante. Donc, il n'y a que les enfants de riches qui peuvent aller à l'école. Donc, mais c'est un paradis, mais il n'y a pas tout ça. Et donc, finalement, la France est un merveilleux équilibre de plein de choses. Et je trouve qu'on a énormément de chance d'être en France. Et pourtant, c'est le pays, ou un des pays, les plus pessimistes et les plus râleurs. C'est lié à un esprit ancien. C'est-à-dire que ça remonte à loin, le côté très critique. Alors, c'est bien d'avoir l'esprit critique, parce que je trouve que les Français, on a l'avantage d'avoir un esprit critique. Tous les pays n'ont pas un esprit critique comme nous. Mais il ne faut pas le systématiser. Et c'est bien de voir aussi les choses positives. Qu'on critique le gouvernement, le truc, c'est normal. Qu'on critique un tas de choses qui ne fonctionnent pas, c'est normal. Mais voyons tout ce qui fonctionne. Voyons la chance qu'on a. Et si on n'équilibre pas les choses, ben, finalement, on finit par être négatif, malheureux, pessimiste, collectivement. Et j'ai toujours été frappé de voir, dans les enquêtes et les sondages sur les Français, 80% des Français se disent plutôt heureux ou très heureux à titre personnel. Et le même chiffre, 80%, disent tout va mal en France. Et ça, c'est une sorte de représentation collective. On ne sait pas être heureux collectivement, sauf qu'on gagne la Coupe du Monde de foot. On ne va pas la gagner tous les 4 ans, donc il faut quand même qu'on apprenne à vivre ensemble en sachant se réjouir de tout ce qu'on a dans ce pays. Et je trouve que c'est très important de voir le positif. Alors, je fais cette parenthèse sur la France, mais en fait, c'est assez universel. L'être humain, pour survivre dans le processus de l'évolution, a eu besoin de mémoriser les choses négatives. Lorsque nos ancêtres de la préhistoire rentraient dans une grotte et qu'il y avait un ours dans la grotte, bah, il se faisait manger. Et donc, quand vous êtes fait manger un bras, il vaut mieux se souvenir, c'est dangereux de rentrer dans une grotte. Et donc, la fois d'après, vous lancez une pierre. Et si rien ne bouge, vous pouvez rentrer. Et donc, la mémorisation des problèmes et des dangers fait partie de la logique de survie. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment à la préhistoire et qu'on n'a peut-être pas besoin de mémoriser tous les dangers et tous les problèmes. Et donc, au fond, ce qui est notre cerveau reptilien qui continue de faire qu'on pense toute la journée à tout ce qui ne va pas. D'ailleurs, regardez le soir avant de vous endormir. Généralement, on pense à tout ce qui n'a pas été dans la journée. Et on se dit, bon, il y a ça et ça et ça et ça qui n'a pas été, il va falloir que je trouve des solutions et tout, puis on a du mal à dormir. Et ce qui peut être une attitude volontaire, je dirais un choix de vie, une orientation philosophique, c'est de décider de sortir de ça. Et ce n'est pas naturel. C'est un acte de volonté, ce n'est pas naturel. Et de dire, ben, je vais arrêter de me plaindre, je vais arrêter de voir tout ce qui ne va pas, je vais aussi voir tout ce qui va bien, et je vais même aller plus loin, je vais remercier la vie pour les cadeaux qu'elle me fait. Eh bien, ça change tout. Parce que le soir, avant de vous endormir, au lieu d'être soucieux de tout ce qui n'a pas été dans la journée, vous allez vous dire, tiens, je vais essayer de me mémoriser 3, 4, 5 choses qui ont été des moments de plaisir ou de bonheur dans la journée. Et puis vous allez y penser, et puis vous allez remercier, et vous allez bien dormir. Ça change tout. Et si vous faites ça au quotidien, moi j'ai appris, je prends l'habitude de remercier depuis 15 jours, je me suis réveillé un matin avec une sciatique. J'avais jamais eu ça de ma vie, c'est un cauchemar. Et là, j'ai râlé, j'ai rouspété et tout. Puis je me suis dit, mais c'est la première fois de ta vie, tu te lèves avec un problème comme ça de santé. Tous les autres jours, tu t'es levé plutôt en bonne santé, à part des moments ponctuels où j'étais très malade, mais ça ne durait pas longtemps. Et tu n'as jamais remercié la vie, alors que là, tu te plains parce que tu as un problème. Et depuis, tous les matins, je me réveille, je remercie la vie d'être en bonne santé. Et bien, ça met une espèce, je dirais, d'ouverture du cœur. À ce moment-là, on est dans quelque chose de positif. On oriente son esprit de manière positive. Et le soir, je remercie la vie de tout ce que j'ai reçu, d'être encore en vie, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est merveilleux d'être en vie. Mais il faut savoir vivre avec conscience, vivre avec gratitude, pour vivre pleinement. Et la plupart du temps, on se diminue la vie en étant, encore une fois, dans le souci, dans l'inquiétude, dans la revendication, dans la plainte. Alors qu'on peut avoir des raisons de se plaindre, mais ne soyons pas tout le temps dans la plainte. Regardons ce qui va bien aussi. Essayons d'orienter notre esprit vers des choses qui peuvent nous aider à grandir, à nous épanouir, parce qu'il y en a beaucoup. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être riche. C'est vraiment une qualité d'attention à ces menus plaisirs qui nous sont offerts du quotidien qui peuvent beaucoup nous aider. J'ai vu ça dans des populations très très lointaines de nous, dans des pays comme en Afrique, en Asie, où les gens sont très pauvres, dans des petits villages où vous avez juste un toit et de quoi survivre. Et les gens étaient très joyeux. Très joyeux parce qu'ils profitaient de tout. Et très joyeux parce qu'ils étaient solidaires. Parce qu'ils étaient vraiment dans des liens forts de solidarité. Et très joyeux parce que finalement, ils aimaient la vie comme elle était. Et non pas comme ils voudraient qu'elle soit. Et c'est ça le problème qu'on a avec la vie. C'est que souvent, nous aimons la vie quand tout va bien. Alors quand tout va bien, c'est facile d'aimer la vie. Mais dès qu'on a une épreuve, un échec, une maladie, un deuil, etc., donc une épreuve de vie, eh ben souvent on se met à ne plus aimer la vie. Et donc on se plaint, on est mal, et on va rajouter à la douleur de la souffrance morale et psychologique. Et ça va être encore pire. Et donc on est en colère contre la vie, alors que des fois, sans même le savoir, peut-être qu'une épreuve, peut-être qu'une difficulté peut nous aider aussi à grandir, peut nous aider à ouvrir notre cœur. Il y a des blessures du cœur. Moi, j'ai vécu des deuils. La souffrance et la tristesse étaient là. Mais ça m'a permis d'aimer encore plus. Ça m'a permis d'ouvrir encore plus mon cœur, d'avoir plus de compassion pour ceux qui souffrent. Et donc, il y a des épreuves de vie qui nous font grandir humainement, qui nous permettent d'être meilleurs. On a tous rencontré des gens qui ont traversé des grandes épreuves qui sont merveilleux, qui sont pleins de bonté, qui sont tolérants, qui sont ouverts. Et puis il y a des gens qui ont été écrasés par les épreuves. Et je dirais que ça tient beaucoup à la manière dont nous décidons de réagir face à l'épreuve. Et c'est là qu'on voit que finalement le bonheur, je disais c'est un état d'être, mais c'est un état d'être qui dépend beaucoup de nous. Alors, il y a une part génétique, il ne faut pas le nier. Les chercheurs américains nous disent que le bonheur, c'est 50% des gènes, la génétique. C'est-à-dire, c'est avoir des gènes où on est plutôt en bonne santé, parce que le bonheur nous aide, la santé nous aide à être heureux. Et l'inverse aussi, d'ailleurs. C'est vrai qu'une bonne santé, c'est mieux pour être heureux, mais être heureux, c'est bon pour la santé. C'est Voltaire qui le dit. Je m'efforce d'être heureux parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé. Et c'est très vrai. Les gens qui ont un bon moral, qui sont de bonne humeur, qui sont joyeux, ça favorise la santé. Et la génétique, évidemment, nous permet d'avoir non seulement une meilleure santé, ça nous permet d'avoir aussi des gènes plus ou moins optimistes ou pessimistes, d'avoir des gènes plus ou moins joyeux ou tristes. Il y a incontestablement des gens qui naissent avec une sorte de joie de vivre qui ne va jamais les quitter. Ils vont traverser les pires épreuves, ils souriront toujours. Et puis vous avez des gens, ils vont naître avec une sorte de pessimisme et de tristesse qui ne va jamais les quitter. Et donc on voit très bien que la chance, le destin, la génétique joue un rôle. Mais ça, c'est peut-être 50%, à peu près la moitié. L'autre moitié, et c'est très important, c'est la manière dont on va réagir face aux événements de la vie. Et donc, c'est notre esprit. Et là, on a une liberté. On n'est pas libre d'avoir tel ou tel gène. On est libre d'avoir un regard qui nous permet de réagir de telle ou telle manière face aux événements de la vie, et notamment face aux épreuves et aux difficultés. Et c'est là, pour moi, que se joue le plus important de la liberté humaine. Et on va voir deux personnes différentes face au même événement, L'une va être effondrée, ou va râler, ou va être malheureuse, et l'autre va en prendre son parti, va essayer de grandir, va essayer d'évoluer, et finalement, elle va s'améliorer en tant qu'être humain. Et c'est là qu'on voit que notre liberté, elle est essentiellement dans la réaction que nous avons face aux événements inéluctables de la vie. Ce qui m'amène à poser quand même une distinction importante entre, je dirais, une attitude d'acceptation et de lâcher prise philosophique et le fatalisme. Puisqu'on pourrait dire, si la sagesse, c'est de dire oui à la vie, d'aimer la vie comme elle est, c'est ce que je suis en train de vous dire. Finalement, quand vous êtes face à quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter, ben, vaut mieux l'accepter et le traverser, entre guillemets, joyeusement, que de s'opposer, d'être dans le déni, d'être en colère, de rouspéter, parce que vous allez rajouter la souffrance à la douleur. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Le fatalisme peut vous dire qu'il faut tout accepter, tout est bon. C'est un raccourci. Parce qu'il survient des choses qui ne sont pas bonnes. Si vous assistez à l'injustice, il faut tout faire pour changer l'injustice. Si vous êtes face à quelque chose qui est scandaleux, il faut lutter. Si vous avez une maladie que vous pouvez guérir, il faut vous battre pour guérir. Et donc tout accepter, c'est une attitude fataliste que je n'aime pas du tout. Et j'ai découvert ça quand j'étais en Inde, j'y ai passé 4 mois. J'ai travaillé dans une léproserie, j'ai travaillé dans un mouroir, on ramassait les gens qui mouraient dans la rue, on les amenait dans un mouroir. J'étais avec Mère Teresa, j'avais 20 ans. Et là, je découvre qu'il y a des gens en Inde qui meurent dans la rue, dans l'indifférence totale. Mais totale. Les gens presque les enjambent. Et je suis extrêmement choqué, comme vous le seriez tous. Et on m'explique, ah mais ici, c'est pas gênant du tout, parce que c'est leur karma. Ils payent ce qu'ils ont commis dans des vies antérieures. Et donc, quelqu'un qui meurt dans la rue, c'est son problème. Évidemment, c'est pas ma philosophie. Et je me dis, peu importe son karma, je suis touché par un humain en détresse et j'ai envie de l'aider. Et je pense que c'est la bonne attitude. Et que, effectivement, Mère Teresa, d'ailleurs, a beaucoup fait bouger la société indienne sur cette question-là. Elle a amené beaucoup d'Indiens à développer des œuvres de compassion, etc., qui n'étaient pas naturelles du tout dans cette philosophie de la vie totalement fataliste. Et donc, je crois qu'il faut que le fatalisme, c'est quand même quelque chose qui est un écueil, parce que ça n'aide pas à développer la compassion. Alors que lorsqu'on est dans un vrai regard de compassion, on a envie d'aider ceux qui souffrent. On a envie de lutter contre l'injustice. On a envie que le monde s'améliore et on s'engage pour ça. Mais des fois, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire devant un tsunami ? Rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire devant un décès ? Rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire si votre patron vous licencie alors que vous avez bien travaillé, parce qu'il y a des questions économiques ? Rien. Il y a plein de cas, vous êtes confronté à des situations où vous ne pouvez rien faire. Et c'est là que la sagesse philosophique, une forme de spiritualité, peut nous aider à traverser ces difficultés. En accueillant ce qu'on ne peut pas changer, plutôt joyeusement et positivement que négativement. Et Épictète nous fait cette distinction en disant il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous et qu'on peut ou qu'on veut améliorer, faisons-le. Ce qui ne dépend pas de nous, le destin, et qu'on ne peut pas changer, mieux vaut l'accepter joyeusement que d'être en colère contre la réalité. Et il prend l'exemple d'un chien qui est tiré par un chariot où il y a 2 bœufs puissants qui tirent le chariot, c'est le destin. Et il dit, si le chien a envie d'aller à droite et que le chariot va à gauche, il va souffrir le chien. Parce qu'il va être tiré et il va être en sang et il va arriver au bout du chemin épuisé. Alors que si le chien qui a envie d'aller à droite, quand il voit que le chariot va à gauche, et ben il gambade derrière le chariot, tout va aller très bien pour lui. C'est pas ce qu'il aurait voulu, mais il se portera beaucoup mieux que s'il avait été tiré par la corde parce qu'il voulait aller de l'autre côté. Et donc il nous dit, c'est pareil dans la vie. Lorsqu'un événement du destin nous contrarie, ça sert à rien d'être en colère contre la vie. Parce que vous allez souffrir 2 fois plus. Et donc la clé d'un bonheur profond, c'est d'accepter la vie, toute la vie, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses moments joyeux, avec ses moments tristes, avec ses malheurs, avec ses bonheurs. Et il y a un autre philosophe qui en parle très bien, c'est Nietzsche. Nietzsche est complètement matérialiste et athée, donc on ne peut pas le soupçonner d'être religieux et d'avoir un point de vue religieux sur la chose. Nietzsche nous dit, la chose la plus importante pour bien vivre, c'est le consentement. Dire oui à la vie. Il nous dit même qu'il faut dire un grand oui sacré à la vie. C'est ce qu'il y a de plus important pour vivre bien. Et il nous dit c'est ce qui nous donne la plus grande joie. Lutz, la plus grande joie. Parce que cette joie-là, c'est la joie de l'acceptation. Alors que si on accepte la vie et qu'on dit oui à la vie et qu'on aime la vie, que quand tout va bien, on aura toujours une vie étriquée. Mais quand on l'accepte, face aussi aux moments difficiles, aux moments douloureux, aux épreuves, notre cœur va s'agrandir. Et notre amour de la vie va grandir et on sera beaucoup plus heureux. Et il prend l'exemple de la musique. Vous savez que Nietzsche était très mélomane. Et il nous dit, un morceau de musique, qu'est-ce qui nous émeut dans un morceau de musique ? C'est la variété. C'est que le morceau, il y a des moments lents. Et puis il y a des moments plus rapides. Il y a du son. Et puis il y a des silences. Dans la musique, le silence est aussi essentiel que le son. Il y a des moments joyeux. Et puis il y a des moments tristes ou nostalgiques. Et c'est ça qui fait la beauté. On est ému par des morceaux qui ont ça. Si c'était tout le temps le même rythme joyeux, tout, ce serait lassant. Et donc ce qui nous émeut, c'est cette variété. Et Nietzsche nous dit, ce qui est émouvant dans la vie, c'est cette variété. C'est le jeu des contraires. C'est qu'il y a à la fois le jour et la nuit. Il y a des moments de bonheur, il y a des moments de malheur. Et d'ailleurs, on n'aurait aucune conscience du bonheur si on n'avait pas la conscience du malheur. C'est la conscience du malheur qui nous permet d'avoir conscience du bonheur. Et c'est parce qu'on a souffert qu'on sait ce que c'est que de ne pas souffrir et qu'on profite pleinement des moments où on ne souffre pas. Vous connaissez cette phrase de Prévert ? J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Bien souvent, c'est lorsqu'on traverse une grande épreuve qu'on se dit « j'avais tout pour être heureux, mais je n'en avais pas conscience. Et maintenant que celui ou celle que j'aime est parti, maintenant qu'il est arrivé tel drame, je réalise à quel point je n'ai pas assez conscientisé le bonheur qui était là. » Et c'est très vrai. Et donc, la vie est faite de tous ces contraires, de tous ces contrastes. Et c'est en aimant la totalité de la vie qu'on peut aimer totalement la vie et qu'on peut être beaucoup plus heureux. Parce qu'à ce moment-là, on dit, comme Nietzsche, un grand oui sacré à la vie. Et ça se joue dans des choses de détails du quotidien comme dans les grandes épreuves. Alors c'est plus facile dans les détails du quotidien, mais pas tant que ça. Parce que si on ne s'entraîne pas dans les petits détails, le jour où une grande épreuve arrive, on ne sera pas préparé du tout. Et donc si on commence par râler, par être en colère, parce que sa voiture est à la fourrière, on se pourrit la vie pour rien. Moi, ça m'est arrivé. J'ai compris ce que c'était que la joie liée au lâcher-prise. J'avais lu ça chez plein de philosophes. Le lâcher-prise donne de la joie. Quand on accepte un truc qu'on ne peut pas faire autrement, on a de la joie qui nous tombe dessus. Et puis ça ne m'était jamais vraiment arrivé. Jusqu'au jour où je sors du restaurant, ma voiture n'était plus là. Là, je comprends très vite qu'elle est à la fourrière. Et je commence par m'énerver, comme tout le monde. « Ah, oh, mais c'est pas possible, et puis j'ai plein de rendez-vous, je vais être en retard, il faut que j'aille la chercher à la fourrière. » Et là, je me dis « Attends, pourquoi tu t'énerves ? T'es en bonne santé, tu viens d'avoir un repas très sympathique, t'as la chance de vivre d'un métier que tu aimes, tu es avec quelqu'un que tu aimes dans ta vie, tout. Il fait beau, et tu te pourris la vie parce que ta voiture est à la fourrière. » Et là, je ris de moi, et il y a une joie qui me tombe dessus. Mais une vraie joie. Du coup, je vais chercher ma voiture en rigolant. Le gars me voit arriver, il me dit « Vous allez bien ?» Il n'avait jamais vu ça. Je lui dis « Oui, oui. » Il me dit « Mais bon, je lui dis « Ma voiture doit être à fourrière, effectivement. » Puis j'étais très joyeux. Il m'a dit « Si tout le monde pouvait être comme vous, ce serait beaucoup plus... » Parce que les gens, ils arrivent, ils râlent. « Et ma voiture, vous l'avez pris à la fourrière alors que j'étais bien garé, etc. » Enfin, en plus, la mauvaise foi, vous voyez. Et là, j'ai eu une belle journée. Alors, j'aurais pu avoir une mauvaise journée si... je m'étais obsédé sur « Ah, ma voiture est à la fourrière. » Bon, après, peu de temps après, j'ai vécu une expérience un peu plus difficile pour un écrivain. C'est que j'ai écrit un livre qui s'appelait « Du bonheur, un voyage philosophique » en 2013. Et le chapitre dont j'étais le plus fier, qui m'a pris le plus de temps, c'est un chapitre où je compare la philosophie de Montaigne avec celle de Chuang Tzu, qui est un grand philosophe chinois, taoïste. Et là, je me dis, putain, c'est formidable, personne n'a jamais fait ça, n'a jamais compris qu'il parlait exactement de la même chose. Et de quoi il parle ? Du lâcher prise. Ils nous disent que l'essentiel dans la vie, c'est d'accepter la vie comme elle est, avec ses hauts, avec ses bas, et que la principale qualité qu'on doit avoir, c'est la souplesse, la flexibilité, s'adapter, accompagner le mouvement permanent de la vie, parce que la vie, c'est un mouvement permanent. On ne peut pas la contrôler. Donc il ne peut pas y avoir de certitude, c'est pour ça que Montaigne et Chuang Tzu sont des grands sceptiques. Il ne peut pas y avoir de certitude, tout change, Tout bouge, tout est impermanent. Et donc, si on veut être heureux sur Terre et réussir sa vie, il faut accepter le mouvement permanent de la vie et ne pas vouloir être figé dans de la sécurité ou dans un contrôle ou dans des certitudes. Ça ne marchera jamais. On peut prendre toutes sortes d'assurances, on ne peut pas s'assurer sur la vie, même s'il y a des assurances-vie. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas s'assurer contre les aléas de la vie. En tout cas, d'un point de vue moral, d'un point de vue humain, pas simplement d'un point de vue matériel. Et donc, Chuang Tzu et Montaigne nous disent la plus grande qualité pour être heureux, ou plutôt joyeux, c'est d'accompagner le mouvement permanent de la vie en ayant un esprit souple. Et donc, j'écris tout ça, je fais un chapitre merveilleux, je suis très fier, et au moment de le sauvegarder, je l'écrase. Je perds tout. Et à l'époque, il n'y avait pas encore des moyens de récupérer ça, surtout sur un Mac. C'était possible sur un PC, pas sur un Mac. Donc je perds tout. Et là, j'ai un moment de vertige métaphysique. 2 mois de travail anéanti. J'étais prêt à exploser de colère, de rage, de tristesse, truc. Et là, je me dis, de quoi parlait ce chapitre déjà ? Ah oui, du lâcher prise. Et là, je dis oui, comme Nietzsche, oui. Et au moment où je dis oui et que je sais que je lâche prise, une joie me tombe dessus. Mais vraiment. Et j'ai une propriété dans le sud, je reviens en marchant, tout guirait, et ma compagne me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air tout joyeux. Oui, j'ai perdu mon chapitre. Pareil, bon. Ça a duré une soirée. Le lendemain matin, quand j'ai dû recommencer à écrire, j'étais un peu moins joyeux. Mais quand même, je ne me suis pas pourri la journée. Et etc. Donc après, il y a eu de plus en plus de moments comme ça, jusqu'à des épreuves beaucoup plus lourdes, où j'ai appris à lâcher prise. Et à me dire, mais à quoi ça sert de perdre, de se mettre en colère contre la vie parce qu'il nous arrive une tuile. Ça sert à rien. Et donc, il s'agit plutôt d'essayer de prendre les choses positivement. Alors qu'il y a des gens qui vivent ça dans des drames incroyables. Parce que ce que je vous dis là, c'est pas grand-chose. Mais une fois, je disais comme ça, bon, le sommet de la sagesse, c'est de dire oui à la vie, à toute la vie. Et puis, j'ai mon ami Luc Ferry, qui est venu ici, j'imagine. Oui. Pas encore, ah ben voilà, il viendra sûrement, qui me dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas dire oui à toute la vie. Imaginez que vous êtes dans un camp de concentration, à Auschwitz ou ailleurs, comment vous voulez dire oui à la vie et aimer la vie? C'est impossible. Et je lui réponds, il y a un exemple. Il y en a plusieurs, mais un très connu, qui s'appelle Iti Ilsoum. Iti Ilsoum, c'est une jeune femme néerlandaise, qui a été déportée, donc juive, déportée à 27 ans. Elle est morte à Auschwitz. Et juste avant, elle était dans le camp de Westerbork, qui était un camp de transition, juste avant le camp final. Elle savait parfaitement qu'elle allait mourir. Et dans ce camp de concentration, elle a écrit des lettres qui nous sont parvenues, qui ont été publiées dans un livre qui s'appelle « Une vie bouleversée ». C'est un livre magnifique. Pour moi, c'est un livre que je conseille à tous les jeunes de lire, parce que ça porte un regard sur la vie complètement différent. Et c'est une jeune femme qui est joyeuse, qui est positive, qui est philosophe. Et elle a continué de mettre en application sa philosophie dans le camp de concentration. Et elle nous dit, on vit un enfer. On a faim. On a froid. On est derrière des barbelés. On est traité moins que des animaux. On sait qu'on va mourir. Et pourtant, il y a une chose que mes bourreaux ne peuvent pas m'enlever, c'est mon amour de la vie. Je continue d'aimer la vie. Parce qu'il y a encore le soleil qui se couche et ça m'émeut profondément tous les soirs quand je le vois dans le camp. Parce qu'il y a des gens qui vont donner un bout de pain alors qu'ils avaient des rations très petites, qui vont partager leurs rations très petites avec d'autres gens qui ont encore plus faim qu'eux. Et quand je vois ça, je trouve ça tellement bouleversant que ça maintient mon amour de la vie. Et puis je me souviens de tous les bons moments, des moments merveilleux, de la balançoire dans le jardin, du lilas derrière la maison. Et quand je repense à tout ça, je serai prêt à revivre toute cette vie, y compris le camp de concentration. Et elle nous dit, il faut prendre la vie comme une totalité indivisible et non pas privilégier quelques moments. Et quand on prend la vie comme une totalité indivisible, on peut supporter les pires épreuves parce qu'on pense à tous les moments merveilleux que la vie peut aussi nous apporter. Et donc je raconte ça à Luc Ferry. Il me répond, elle est psychotique. Bon, qui est psychotique? Est-ce que c'est celui qui refuse la réalité ou c'est celui qui l'accepte totalement? Eh bien, si je suis freudien, le psychotique, c'est celui qui refuse la réalité. Celui qui l'accepte totalement, parce que la psychose, c'est un déni de réalité. Je ne peux pas voir la réalité, et mon cerveau bascule dans la psychose. Eh bien, celui qui accepte totalement la réalité, Iti Ilsoum, qui accepte totalement la réalité, c'est l'inverse total de la psychose. C'est la personne qui est dans l'acceptation absolue, et c'est la personne, je pense, la plus spirituelle et la plus heureuse qui soit. Et donc, voilà un exemple extrême de ce que peut être un grand oui sacré à la vie. Et je préfère le citer, même si ça peut choquer. Je sais que ça peut choquer certains, parce que c'est une réalité. Et j'en ai connu d'autres, j'ai connu deux personnes rescapées des camps qui m'ont dit la même chose. Et notamment, il y en a un très célèbre, c'est Viktor Frankl. Viktor Frankl, rescapé des camps, qui a construit toute sa philosophie sur le sens, en disant les gens qui ont survécu au camp et qui ont pu s'en sortir et continuer de construire leur vie de manière positive, c'est les gens qui ont su donner un sens à leur vie. Ceux qui n'ont pas su donner un sens, ils n'ont pas survécu. Ou après, ils ont été dans une souffrance intérieure qu'ils n'ont jamais pu surmonter. Et donc, l'être humain a une capacité de donner du sens à sa vie, de donner de la valeur à ce qu'il fait, de trouver que dans un petit bout de pain, il y a quelque chose de merveilleux, de trouver que dans un coucher de soleil, même dans des camps, il y a quelque chose de bouleversant. Et ça, c'est nous qui le faisons, par notre esprit. C'est pour ça que, de manière ultime, le bonheur, il est en nous. Il n'est pas dans les événements extérieurs. Bien sûr que les événements extérieurs comptent. Bien sûr qu'il vaut mieux gagner de l'argent que de ne pas en avoir du tout. Il vaut mieux avoir une voiture pour se déplacer que de ne pas en avoir si c'est compliqué pour nous de nous rendre à notre lieu de travail. Il vaut mieux avoir un peu de confort que pas du tout. Tout ça est très important. Ça nous aide, ça nous favorise la vie. L'argent peut nous donner de liberté pour voyager, pour faire nos rêves. C'est formidable. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'on s'aperçoit que les choses essentielles pour être heureux ne sont pas matérielles. Vous savez, il y a une enquête qui a été faite dans le monde entier, enfin dans 50 pays, par un institut américain, où ils, dans 50 pays complètement différents, des pays riches, des pays pauvres, des pays moyens, toutes sortes de pays. Ils ont posé la question à 3000 personnes dans chaque pays, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et les réponses sont les mêmes partout. Le tiercé gagnant, c'est 1, l'amour. La qualité des relations affectives avec mes proches. On ne peut pas être heureux sans amour. On peut être milliardaire et malheureux si on n'a pas d'amitié et si on n'a pas d'amour dans sa vie. 2, la santé. Il est essentiel d'être en bonne santé pour être heureux. Ça aide beaucoup. 3, faire un travail qu'on aime. Voilà les 3 choses qui sont toujours citées. Le confort matériel et l'argent ne sont jamais cités dans les 3 premiers. Par contre, quand on demande aux gens « Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus que vous n'avez pas pour être plus heureux ?» 1, l'argent. Mais je trouve ça passionnant. C'est qu'on aimerait tous gagner plus d'argent, parce qu'on se dit « Ça nous permettra de faire ci, de faire ça. Et si j'ai tout, j'offrirai des cadeaux à mes petits-enfants. » Donc oui, tout le monde voudrait avoir plus d'argent. Mais on sait tous que ce n'est pas un critère fondamental du bonheur. Parce qu'on peut être heureux sans argent, on ne peut pas être heureux si on n'a pas d'amour, si on n'aime pas son travail, et c'est très dur d'être heureux si on est en très mauvaise santé. Et donc là, on voit que les fondamentaux sont ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants en ont parfaitement conscience. Moi, je suis frappé, vous savez, je fais des ateliers de philosophie avec les enfants. Ça, c'est une chose qui me passionne. C'est que j'ai découvert que ça existait depuis 30 ans aux États-Unis et au Canada. Ça commence à se développer depuis une quinzaine d'années en France. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a complètement enthousiasmé, puisque j'ai pratiqué pendant un an, j'ai consacré un an de ma vie à faire des ateliers de philo avec les enfants, et ils ont une sagesse et un désir de s'exprimer et de pouvoir dire leurs pensées qui est absolument incroyable. Et donc, d'ailleurs, j'ai fait un livre sur le sujet qui s'appelle « Philosopher et méditer avec les enfants », parce que j'ai fait des pratiques de l'attention pour les aider, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à être attentifs. Et les enfants ont une conscience incroyable de grandes vérités philosophiques. Et dans les ateliers philo, ils peuvent s'exprimer. Parce que c'est un atelier philo, c'est quoi? C'est on les met en cercle dans une classe, et puis on choisit un sujet avec les enfants, et ils en discutent entre eux. Et donc on les aide à débattre. Donc on leur apprend à appréhender un sujet, le problématiser, discuter, ça veut dire s'écouter. C'est pas facile d'écouter l'autre. S'écouter, argumenter, ne pas simplement dire c'est comme ça. Non, pourquoi tu dis ça? Donne un argument. Et donc, on leur apprend à philosopher. Et ils le font très, très vite. On commence avec des enfants de 4-5 ans, et on voit très rapidement les enfants, ils rentrent dans le processus de l'acte de philosopher. Vous savez qu'Aristote nous dit, la philosophie, ça commence avec l'étonnement. Ça continue avec l'interrogation. Et ça se poursuit avec le raisonnement et l'argumentation. Donc c'est l'usage de notre raison, qui est tout à fait universel. Et les enfants, quand vous les voyez philosopher, ils adorent ça, parce que c'est le seul lieu dans l'école où ils peuvent dire ce qu'ils pensent, sans être jugés, sans être notés. Et donc, ils se libèrent. Et ils disent, ben voilà, moi je pense ça, la liberté pour moi c'est ça, et puis ils discutent, puis ils écoutent les autres, et c'est un laboratoire de démocratie. Puisqu'en écoutant les autres, ils découvrent que les autres, ils peuvent les enrichir. Ils s'enrichissent de la diversité, ils s'enrichissent de la pensée des autres. Et ils progressent. Ce qui fait qu'au bout d'une année d'atelier philo, la classe est transformée. Et les enfants ont beaucoup plus d'esprit critique, ils apprennent le discernement, ils ont plus de qualité d'écoute, et ils ont la joie de pouvoir exprimer leurs pensées. Et donc, je me souviendrai un des tout premiers ateliers philo que j'ai fait dans un petit village du Cap Corse, avec des enfants de 7 ans. Et ils voulaient parler du bonheur. Vous savez, quand vous posez la question à des enfants, de quoi vous voulez parler, librement, comme ça, c'est toujours les mêmes choses. La mort, Dieu, le bonheur, la vie, toutes les grandes questions existentielles dont ils parlent jamais ailleurs. Et ça les passionne, parce que c'est les grandes questions que les adultes n'osent plus poser. C'est pour ça que Michel Onfray dit quelque chose de très juste. Il dit, on est tous philosophes, certains le demeurent. Mais tous les enfants sont philosophes. Et donc, il pose la question du bonheur. Et alors, il y a des enfants qui commencent à répondre, ben, être heureux, c'est... par exemple, ils commencent toujours par des exemples quand ils sont petits, c'est quand je veux une glace et qu'on me donne une glace, je suis heureux. J'ai envie de faire un câlin à maman, je fais un câlin à maman, je suis heureux. Alors, il y a un enfant qui va un peu plus loin. Oui, en fait, on est heureux quand on réalise ce qu'on a. Donc, le bonheur, c'est la réalisation de ses désirs. Et je dis, vous pensez tout ça? Alors, ils disent oui, sauf un. C'est là que ça devient super intéressant. Et il y a un enfant qui dit pas du tout. Alors je lui dis pourquoi. Il me dit, ben, en fait, c'est pas vrai. Parce que quand on veut quelque chose et qu'on l'a, après on n'est pas heureux parce qu'on veut toujours autre chose. Il dit, moi, chaque fois qu'on me donne un jouet, ben, j'ai envie d'un autre. Et j'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Alors je lui dis, tu t'appelles Sénèque? Il me dit, non, Julien. Et je lui dis, alors Julien, c'est quoi le bonheur pour toi? Il me dit, ben, être heureux, c'est juste d'être, d'exister au monde. Et le soir, il rentre et il dit à sa maman, 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 quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Et c'est pour ça que j'ai créé une fondation, je vous en dis un mot maintenant, j'ai créé une fondation qui s'appelle Sève. Sève, comme la sève de l'arbre, c'est l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble. Et le but, c'est de développer les ateliers de philosophie dans les écoles. On a reçu l'agrément du ministère de l'Éducation nationale et on fait des week-ends dans lesquels, en 4 week-ends, on forme des gens à animer des ateliers de philosophie. Alors on le fait avec les enfants, puis maintenant on le fait avec des personnes âgées. Et puis on le fait dans les prisons. Et puis on le fait dans les hôpitaux. Et ça fait un bien fou. Et donc, cette fondation qui est reconnue d'utilité publique, qui est liée à la Fondation de France, elle se développe beaucoup. Et si vous êtes intéressé, parce que vous êtes enseignant ou parce que vous avez envie d'aller dans des prisons, des hôpitaux ou des écoles, les enseignants peuvent vous accueillir même si vous n'êtes pas enseignant, pour animer des ateliers philo, vous pouvez soit aller sur le site sève.org, soit à la sortie, il y aura des bénévoles qui font partie de la région. On a des antennes locales un peu partout, parce qu'on existe depuis 2 ans, on s'est beaucoup développé, et qui seront là pour vous renseigner. Donc il y aura une table sève, et il y aura même une urne sève, pour si vous voulez nous aider, parce qu'on a besoin d'aide, et que c'est vrai que tout ça nous coûte très cher, on fait des ateliers avec des enfants dans des quartiers défavorisés, et on ne veut pas les faire payer, donc si vous pouvez nous aider, c'est quelque chose de formidable. Vous participerez au développement de ces ateliers avec les enfants, si vous donnez 1 euro, c'est formidable, et 10 euros, vous gagnez 1000 ans de purgatoire, donc ça vaut vraiment la peine. Mais surtout, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez vous renseigner pour faire la formation. Ou si vous êtes enseignant ou chef d'établissement, pour savoir ce que c'est que c'est, pour le faire venir dans votre établissement. Tout ça pour vous dire que la question du bonheur, c'est une question qui est essentiellement liée au regard qu'on porte sur la vie. Et si on a un regard constructif, positif sur la vie, on est beaucoup plus heureux que si on voit que tout ce qui ne va pas. Et il y a un petit conte soufi qui le raconte merveilleusement bien. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans une ville, il est étranger, et il voit un sage assis à la porte de la ville. Et il lui pose la question, « Dis-moi, vieil homme, comment sont les gens dans cette ville? Est-ce qu'ils sont gentils, agréables, désagréables ?» Et le sage, comme toujours, lui retourne la question. Dis-moi, étranger, comment sont les gens dans la ville d'où tu viens ? Comme il vient de Chalon-sur-Saône, il dit très gentil, charmant, extrêmement agréable. C'est vrai. Et le sage lui répond, bah ici c'est pareil. Et puis arrive un autre étranger, 10 minutes après, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? Et le sage lui répond, et comment étaient les gens de la ville d'où tu viens ? Et l'homme dit très désagréable, méchant et tout, et je ne dis pas d'où il vient. Et le sage lui répond, bah ici c'est pareil. Alors il y a un marchand de chameaux qui entend la conversation, qui va voir le sage, qui lui dit, mais t'es un menteur. Tu dis à quelqu'un que tous les gens sont gentils ici, et tu dis à l'autre que tous les gens sont méchants. Il faut savoir. Et le sage lui dit, ça n'a aucune importance. Parce que chacun porte le monde dans son regard. Un homme heureux quelque part sera heureux partout. Un homme malheureux quelque part sera malheureux partout. Et je crois que c'est une vérité très profonde. Et c'est pour ça que pour moi le bonheur, finalement, je pense que c'est tout simplement aimer la vie de manière inconditionnelle. Et c'est ça qui nous rend heureux. Et du coup, on savoure chaque petit moment de plaisir et on sait tirer parti de tout. Alors qu'on peut être très malheureux dans un contexte qui n'est pas si malheureux que ça, parce qu'on ne sait pas le faire. Donc c'est vraiment apprendre à orienter notre regard, à regarder la vie d'une certaine manière. Alors, après, on peut se poser la question, est-ce qu'un art de vivre, une vie réussie, c'est simplement être heureux ? Parce que là, je vous ai parlé du bonheur. Mais est-ce que le bonheur, c'est ce qu'il y a d'ultime ? Est-ce que c'est le but, le sens de toute vie humaine ? Beaucoup le pensent. Et notamment un certain nombre de penseurs, on a évoqué, le pensent. D'autres, non. Socrate ne le pense pas. Jésus ne le pense pas. Vous avez des philosophes qui vous disent le bonheur n'est pas le but ultime de la vie. Le but ultime de la vie, c'est plutôt l'amour. C'est plutôt de faire le bien. C'est plutôt d'être capable de compassion, de justice, de partage, quitte à être malheureux. Si, pour faire cet acte de justice, vous allez devoir vous sacrifier. Prenons les résistants pendant la guerre. Ce sont des gens qui ont fait passer la justice avant leur bonheur individuel. Et vous avez des gens qui ont sacrifié leur vie pour des causes plus grandes. Et on le voit chez un certain nombre de grands penseurs. Socrate, c'est typique. Il a refusé de se sauver parce qu'il a dit, toute ma vie, j'ai dit qu'il fallait respecter la justice, et notamment la justice de la cité, et même quand elle se trompe, parce que pour lui, elle s'est trompée, je vais quand même respecter la décision de justice. Parce que sinon, je donnerai un contre-témoignage de tout ce que j'ai dit dans ma vie. Il a bu la ciguë et il est mort. Et pour Socrate, c'était quoi qui était le plus important ? C'était pas le bonheur, c'était la vie bonne. Vivre selon le bien. Il mettait la justice comme la principale des vertus. Et donc, on peut voir que lorsque on relie notre bonheur individuel au bien commun, et bien à ce moment-là, il y a des engagements qui peuvent nous coûter, des fois la vie, qui sont des valeurs plus importantes que notre petit bonheur égoïste. Qui peuvent donner d'ailleurs des grandes joies. Parce qu'on peut donner sa vie avec une certaine joie, si on le fait pour une grande cause. Comme on peut prendre des risques qui nous apportent aussi, vous savez, il y a une phrase de l'Évangile que j'aime beaucoup qui dit « il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et c'est vrai que la joie, c'est encore quelque chose dont je n'ai pas parlé, je vais en parler un peu maintenant, puis je vais revenir sur la notion de vie bonne. La joie, c'est quand même encore autre chose que le plaisir et le bonheur. Je dirais que c'est une sorte de mélange de plaisir, de bonheur décuplé. Puisque la joie, comme le plaisir, c'est une émotion. C'est quelque chose qui vient, effectivement, très souvent, subitement, et qui ne dure pas forcément. Mais comme le bonheur, ça peut durer. Ça peut durer lorsqu'on cultive la joie, lorsqu'on développe dans sa vie des qualités qui nous permettent d'être joyeux. Parce que vous savez, la joie, on ne la décrète pas. Vous pouvez décréter le plaisir. Vous pouvez dire, je vais me faire un petit plaisir. Vous ne dites pas, je vais me faire une petite joie. Ou si vous dites à votre conjoint, chéri, je vais me faire une petite joie dans le salon, il va trouver ça suspect. Vous voulez vous faire un petit plaisir, vous allez vous faire un café. Vous aimez le café ? Petit plaisir. Vous allez manger du chocolat. Vous êtes sûr que vous aurez du plaisir. Vous allez regarder une série que vous aimez. Vous êtes sûr que vous aurez du plaisir. Alors qu'une joie, vous ne pouvez jamais le programmer. Vous ne pouvez pas programmer la joie. La joie, elle vous tombe dessus. C'est comme une grâce, ça vous tombe dessus. Mais ça vous tombe dessus dans certaines circonstances. Et donc, ce qu'on peut faire, ce n'est pas décréter la joie, c'est cultiver un terrain favorable à l'émergence de la joie. Par exemple, être attentif. Si vous êtes présent et attentif, quand vous regardez un beau paysage, eh ben, vous pouvez avoir une joie extraordinaire qui vous tombe dessus. Si vous êtes présent et attentif quand vous parlez à un enfant, son sourire ou ce qu'il va dire peut vous mettre dans une joie extraordinaire. Si vous pensez à autre chose, il ne va rien se passer. Donc la qualité de présence est un terrain qui favorise l'émergence de la joie. La gratitude favorise l'émergence de la joie. Plus vous remerciez, plus vous êtes dans la joie. Le lâcher prise favorise l'émergence de la joie. J'en ai parlé tout à l'heure. La bienveillance, les bouddhistes nous disent que le meilleur ami de la joie, c'est la bienveillance. Plus vous êtes bienveillant et altruiste, plus vous serez joyeux. Si vous êtes malveillant, la différence, c'est que le malveillant se réjouit du malheur d'autrui. Le bienveillant se réjouit du bonheur d'autrui. Les malveillants, ils ont des petits plaisirs et jamais grande joie. Ils ont le petit plaisir de voir que la personne d'à côté, le voisin, s'est cassé la figure. Mais ils n'ont pas la grande joie de pouvoir voir le voisin se rétablir. La grande joie vient de la bienveillance. Donc la joie est liée à la bienveillance. Et la joie, c'est très mystérieux, hein. C'est pas d'où ça vient. C'est une émotion corporelle, ça fait partie des grandes émotions, mais ça touche aussi le cœur, ça touche l'esprit, ça touche la globalité de l'être. Et d'ailleurs, quand on est joyeux, on voit bien, il y a une illumination dans notre regard, on saute, le corps bouge, le cœur s'ouvre, c'est quelque chose d'extraordinaire, la joie. Et donc la joie, donc, c'est une expérience fondamentale de l'être humain, et c'est pour Spinoza, qui est un auteur que j'ai beaucoup travaillé, que j'aime énormément, j'ai écrit un livre sur lui, Spinoza, c'est le grand philosophe de la joie. Et il nous dit... La joie est liée à la progression, puisqu'il nous explique que tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Et plus il grandit, plus il est dans la joie, alors que chaque fois qu'il rencontre des obstacles qui l'empêchent de grandir ou qui le diminuent, il est dans la tristesse. Et donc il nous dit la joie est liée à l'accomplissement de soi, à la croissance. La tristesse est liée à la diminution. D'ailleurs, on le voit à l'échelle collective. Quand un pays grandit, ça croît sur le plan... à la fois de son rayonnement, sur le plan culturel, sur le plan économique, il y a plus de joie. Alors qu'on diminue quand on a moins qu'avant, dans tous les plans. Et donc la joie est liée à la croissance. Et on voit un petit enfant, quand il progresse, quand il apprend, quand il commence à marcher, quand il commence à parler, il est dans la joie absolue. Parce qu'il ne cesse de grandir et de progresser. Et donc, pour Spinoza, c'est surtout ça, et c'est d'ailleurs des joies qui sont liées à la réalisation de notre nature singulière. Et là, on touche à quelque chose de très important, c'est que la joie ou le bonheur, c'est beaucoup lié à la réalisation de sa nature. Il faut réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Si je suis fait pour être pianiste ou musicien et que je suis banquier, je ne serai pas heureux dans ma vie. Parce que ma nature était nature artistique. Et l'inverse est vrai aussi. Une fois, j'ai donné cet exemple en conférence. Il y a quelqu'un qui me dit « Moi, monsieur, je suis pianiste parce que mon père était professeur de piano et j'aurais aimé être banquier, je ne suis pas heureux. » Je lui dis « Vous avez raison. Si votre tempérament... c'est que vous aimez l'argent et vous avez envie d'être banquier, mais soyez banquier. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des métiers qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Donc c'est très important de développer dans la vie ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour le voisin. C'est pour ça qu'il faut être très tolérant. Il ne faut pas vouloir appliquer à tout le monde ce qui est bon pour nous. On le voit pour l'alimentation. L'alimentation, et d'ailleurs Spinoza en parle, il commence par là. Il nous dit ce qui nous met dans la joie, c'est l'alimentation... Et donc dans la santé du corps, la joie c'est la santé du corps, c'est l'alimentation qui nous convient. Mais il y a des choses qui vont convenir à une personne et pas du tout à une autre. Alors il y a des choses qui sont mauvaises pour tout le monde. Je pense que l'arsenic, c'est bon pour personne. L'eau, c'est bon pour tout le monde. Mais entre les deux, ça se discute. Et donc il y a des gens qui vont vous dire, faut pas manger de gluten. Oui, il y a certaines personnes qui sont totalement allergiques au gluten ou intolérantes. D'autres pas du tout. Et donc il faut vraiment regarder ce qui correspond à chacun. Et voir ce qui le nourrit. Et c'est pareil dans la vie affective. Chacun doit trouver un mode de vie amoureuse qui lui convient. Chacun doit trouver un mode de travail, un type de travail qui lui convient. Et donc pour ça, il faut se connaître. C'est pour ça que la clé de la sagesse et d'une vie bonne et heureuse, c'est la connaissance de soi. C'est que si on connaît, on apprend à discerner ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et on apprend à juger par soi-même ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas. Ce que Montaigne... préconisait, et il disait l'éducation, ça ne devrait pas viser simplement à faire une tête bien pleine, ce qu'on fait toujours aujourd'hui, accumulation des connaissances, ça devrait surtout nous permettre d'avoir une tête bien faite, apprendre à juger. Et le but de l'éducation, ça devrait être principalement d'aider les enfants à juger par eux-mêmes ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas, et ce qui est bon pour le collectif et ce qui ne l'est pas. Et donc c'est une éducation du discernement. C'est ce qu'on fait avec les ateliers philo. On aide les enfants à apprendre à juger par eux-mêmes, à développer leur esprit critique, à avoir un discernement personnel, et pas répéter simplement ce qu'on leur a dit, leurs petits copains, ce qu'ils voient dans les médias, ce qu'ils voient sur Internet, etc. Sinon, ils sont perméables à tout. Et c'est pour ça qu'il y a tant de théories du complot, etc., qui se développent. C'est parce que les gens n'ont pas de discernement. Et donc, je pense que dans notre monde, aider les enfants à avoir du discernement, c'est vraiment une des œuvres les plus utiles qu'on puisse faire. Et donc, la joie, c'est lié à la croissance, c'est lié à la connaissance de soi et la réalisation de ce qui est bon pour nous. Alors Bergson, c'est un autre philosophe du début du XXe siècle qui a beaucoup parlé de la joie, et j'aime beaucoup la manière dont il compare le plaisir et la joie. Il nous dit le plaisir, c'est une ruse que la nature a inventée pour la survie de l'espèce. Vous n'y avez peut-être jamais pensé. Moi, j'y ai jamais pensé avant de le lire. Et c'est tellement juste. Si on n'avait pas de plaisir à boire, on ne boirait pas, on mourrait. Si on n'avait pas de plaisir à manger, on ne mangerait pas et on mourrait. Si on n'avait pas de plaisir à faire l'amour, on ne ferait pas l'amour et on ne se reproduirait pas. Et donc, à l'origine, le plaisir est là, et c'est pareil pour les animaux. On est des animaux comme les autres. Le plaisir est là pour nous faire faire des expériences agréables qui sont d'abord là pour la survie de l'espèce. Après, on en profite au-delà de la survie de l'espèce. Heureusement qu'on ne fait pas uniquement l'amour pour la survie de l'espèce. Ça existe encore, hein. Il y a des gens qui le font, mais bon, moi non. Et donc, et vous non plus, je pense. Et donc, finalement, on voit que le plaisir, c'est une ruse que la nature a inventée pour la survie des êtres. C'est lié à la survie, à la base. Et il nous dit la joie, c'est l'inverse. La joie signe toujours la victoire de la vie. La joie, c'est un accomplissement. On est dans la joie quand on s'accomplit, qu'on gagne, qu'on réussit, qu'on développe notre potentiel, qu'on a une victoire. Et ça commence avec la joie de l'équipe de France de foot qui gagne. Mais quelle joie quand on gagne, d'un point de vue individuel et collectif. Quand vous avez été élu maire, quelle joie. Et donc, chaque fois qu'on gagne quelque chose, qu'on réussit un objectif, qu'on l'atteint, on est dans la joie. Et donc, la joie, c'est vraiment une victoire de la vie qui s'épanouit, qui grandit, qui manifeste. C'est nos objectifs qu'on atteint. Alors après, évidemment, toute joie n'est pas forcément morale. Comme tout bonheur n'est pas forcément moral. Il y a des gens heureux et égoïstes, je vous le disais tout à l'heure. Et puis il y a des gens qui sont dans des joies qui ne sont pas forcément des joies morales. Il faut bien distinguer les deux. Et c'est pour ça que Spinoza nous dit, il faut distinguer la joie passive de la joie active. La joie passive, et alors Spinoza, dans sa philosophie, il lit toujours les émotions, parce que c'est le grand philosophe des émotions, il lit les émotions, c'est l'inverse de Descartes, hein. Il valorise les émotions, et nous montre qu'il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. Les deux fonctionnent toujours ensemble. On pense dans un corps et notre corps influe notre pensée, et notre pensée influe notre corps. C'est le philosophe de la psychosomatique. Tout est lié. Et donc, dans cette interaction permanente entre le corps et l'esprit, il nous dit chaque émotion s'accompagne d'une idée, d'une pensée. Et cette pensée est juste ou fausse. Il utilise les mots adéquates ou inadéquates, parce qu'il ne veut pas mettre de valeur morale derrière. Donc il dit chaque pensée, chaque émotion s'accompagne d'une idée adéquate ou inadéquate. Prenons la joie s'accompagne d'une idée adéquate ou inadéquate. Si l'idée qui accompagne la joie est adéquate, c'est une joie active, c'est-à-dire profonde, fondée sur la vérité qui va durer. Si l'idée qui l'accompagne est inadéquate, c'est-à-dire liée à une erreur ou à l'imagination ou à une illusion, en fait, cette joie ne va pas durer, elle est passive, elle va tôt ou tard se transformer en tristesse. Et on peut prendre l'exemple de la passion amoureuse. La passion amoureuse, c'est quand même très souvent une joie passive. Pourquoi ? Alors, définition de Spinoza de l'amour. L'amour, deux points, alors écoutez bien, ça va très vite. L'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est pas très romantique. Si vous faites un casting ou un speed dating pour l'amour est dans le pré, et que vous dites l'amour c'est une joie, il y a l'idée d'une cause extérieure, c'est mort. Mais cela dit, j'adore l'amour est dans le pré. Je n'en ai pas loupé un épisode jusqu'à hier soir. Ah, j'adore. Et j'adore Rico. Je trouve merveilleux. Il y a des personnages tellement authentiques. Moi, ça me bouleverse cette émission, vraiment. Je le mets à part. Et donc, disons que ce n'est pas une émission hautement philosophique. Mais c'est une émission très touchante, qui parle du cœur. Et chez beaucoup de paysans, il y a encore du cœur qu'on a un peu perdu dans nos vies citadines. Et donc, Spinoza, qui fait une définition hautement philosophique de l'amour, nous dit que c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la joie, on comprend. On tombe amoureux, on est dans la joie. Très bien, ça ouvre notre cœur, on grandit, etc. On pourrait dire spontanément à quoi est liée la joie ? Elle est liée à la rencontre avec l'autre. Okay ? Donc l'autre, c'est la cause extérieure. La cause extérieure qui est l'autre nous met dans la joie. Mais Spinoza nous dit, c'est pas l'autre qui nous met dans la joie. C'est pas la cause extérieure qui nous met dans la joie. C'est l'idée qu'on en a. Et c'est là tout le génie de Spinoza. C'est que notre connaissance de l'autre détermine la joie. Et la connaissance peut être adéquate ou inadéquate. On peut vraiment connaître l'autre comme ne pas le connaître du tout. Se tromper, s'illusionner. Et la plupart du temps, dans une rencontre amoureuse, il y a plein d'illusions. Pourquoi il y a plein d'illusions ? Parce que d'abord, nous, on projette sur l'autre un tas d'attentes infantiles non résolues. Papa était comme ça, je recherche quelqu'un qui ressemble à mon père. Maman était comme ça, je recherche quelqu'un qui ressemble à ma mère. C'est pour ça que les images parentales, ou l'inverse, ou exactement l'inverse. Donc on est en opposition. Donc les images parentales déterminent considérablement le choc amoureux. J'ai un ami psychiatre qui me dit quand il y a deux amoureux qui font l'amour la première fois, il y a 8 personnes dans le même lit. C'est pas ce que vous croyez, mais il y a les deux amoureux, et puis il y a les parents respectifs et les anciens conjoints. Et tout ça se met dans notre imagination, et du coup, c'est très compliqué. Et donc, effectivement, on projette sur l'autre un tas de choses. Et puis l'autre, rarement, il se montre tel qu'il est. Au tout début, on ne va pas dire, « Bon, je suis un loser, je ronfle la nuit, je pue des pieds, et je passe ma vie à regarder des matchs de foot avec des canettes de bière. » Vous partez en courant. Donc on va dire, « Oui, je fais du yoga, de la méditation, je réussis tout dans ma vie, j'ai une grosse voiture, j'ai une belle maison dans le Luberon. » On va montrer tout ce qui est favorable. Et donc, on tend aussi à illusionner l'autre. J'ai une amie comme ça, je me souviendrai toujours, femme d'une quarantaine d'années, célibataire, qui un jour m'appelle en disant « J'ai enfin rencontré le prince charmant. » Là, j'ai un petit doute. Je me dis, à 40 ans, elle croit encore au prince charmant. Pas fait un gros travail sur elle-même. Et j'entends Spinoza me souffler à l'oreille « Joie passive. » Ça va tôt ou tard se transformer en tristesse. Et Spinoza nous dit « Et l'amour, lorsqu'il y a une joie passive, il va se transformer aussi en haine. » Et donc, quand on est dans la passion, dans l'illusion, et ben un jour, on va être dans la tristesse et dans la haine. Et on le voit avec des couples qui se sont adorés de manière passionnelle et qui passent 20 ans à se déchirer. Donc, c'est pas de la joie active, c'est pas de l'amour vrai, c'est de l'amour illusoire et c'est de la joie passive. Et donc, j'entends Spinoza me dire ça. Et je me dis, dans 15 jours, elle va me rappeler en disant « Je me suis complètement trompé. » Et pas du tout. Ça dure un mois, très heureuse, 6 mois, très heureuse, 1 an, très heureuse. Puis au bout d'un an et demi, un jour, je décroche et elle me dit directement comme ça « Le salaud !» Et là, je comprends qu'elle parle de son amoureux. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il est marié. Et là, je dis, c'est énorme. C'est énorme. Tu comprends ? Il m'a dit qu'il était tout le temps en voyage, qu'il triperie, il avait ses enfants, il ne voulait pas que je voie ses enfants parce qu'ils étaient permis du divorce, de machin. Enfin, le gros baratin. Et puis, en fait, le type lui avait menti de manière énorme. Et quand elle lui a dit, parce qu'elle a fini par le découvrir, il lui a dit, mais tu ne m'as jamais posé la question. La bonne foi des hommes. Et donc finalement, elle me dit, c'est un salaud, il m'a menti. Je lui dis, oui, c'est un salaud, il t'a menti. Mais toi aussi, tu t'es menti. Tu n'as pas voulu le voir. Que t'aies mis 1 an et demi à t'apercevoir qu'il te mentait, c'est énorme. Ça veut dire aussi que tu ne voulais pas voir. Et pourquoi tu ne voulais pas voir ? Parce que tu croyais au prince charmant. Et le prince charmant, il ne pouvait pas être marié. Sinon, c'est plus le prince charmant. Le prince charmant marié, c'est moins le prince charmant. Et donc du coup, comme elle attendait le prince charmant, ben, elle n'a pas voulu voir le truc le plus énorme, c'est qu'il était marié. Jamais posé la question, jamais voulu comprendre pourquoi il n'était jamais là, jamais disponible, alors qu'on pourrait être un peu soupçonneux quand même. Vous voyez, je suis plutôt positif, mais moi je me serais posé des questions. Et donc là-dessus, elle s'est désillusionnée, elle s'est mise à le haïr, exactement comme le dit Spinoza. Donc vous voyez, c'est très important de distinguer la joie passive de la joie active qui est liée sur la vérité, sur la connaissance véritable. Et donc l'amour, en fait, quand il est vrai, quand il est fondé sur la connaissance de l'autre, ça peut durer très très longtemps. Et la joie qui est là, elle peut durer, elle est éternelle. D'ailleurs, Spinoza nous dit la joie active est éternelle. Elle ne part jamais. Même si on se sépare, on continue d'aimer l'autre. On peut se séparer pour plein de raisons. parce qu'on n'évolue plus ensemble, parce que quelqu'un a peut-être rencontré quelqu'un d'autre qui le met encore plus dans une joie qui le fait grandir, etc. Mais on continue d'aimer l'autre. Si on l'a aimé vraiment un jour, on l'aime toute sa vie. Comme ses enfants. On ne va pas arrêter de les aimer parce qu'ils ont fait un choix qui nous déplaît. On les aime toute sa vie, nos enfants. Eh bien, ses conjoints aussi. Même si on se sépare, même si on se divorce, même s'ils meurent, on continue de les aimer autant. Et la joie de la relation qu'on a pu avoir dans la vérité, elle est éternelle. Elle reste tout le temps là. Moi, j'ai perdu ma compagne il y a quelques années de manière dramatique. Eh bien, la joie est toujours là des moments qu'on a passés ensemble. Parce que c'était des moments vrais. C'était des moments tellement forts que du coup, c'est éternel. Ça ne disparaît jamais. Ça n'enlève pas la tristesse. Mais la joie cohabite avec la tristesse. Et donc, c'est pour ça que la vérité dans la relation amoureuse est essentielle. Et ça va très loin. Parce que souvent, on aime de manière tellement passionnelle qu'on est hyper possessif. On est super jaloux. Et on dit à l'autre, si tu me quittes, je te tue. Est-ce que c'est de l'amour ? Non, mais je connais des gens qui disent ça. Ou je me tue. Parce que ce qui revient à peu près au même, hein, parce que c'est une violence dans les deux cas, je me tue ou je te tue. Mais c'est tout sauf de l'amour. C'est de la peur, c'est de l'insécurité, c'est du besoin d'être rassuré, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas de l'amour. Et donc, l'amour vrai, c'est dire à l'autre, je t'aime, tu m'apportes énormément, j'ai envie que tu sois heureux, et ton bonheur est plus important que tout. Et si ton bonheur passe par le fait que tu dois me quitter un jour, ben je l'accepterai. Et quand on en est là, on est vraiment dans l'amour. Un amour vrai, un amour profond qui fait passer le bonheur de l'autre avant son besoin. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des insécurités, parce que... et du coup, ça nous renvoie à toutes nos peurs d'abandon, de rejet, etc. Mais l'amour vrai, on ne possède pas l'autre. L'autre ne nous appartient pas. Comme un enfant ne nous appartient pas. Comme le dit Khalil Gibran, le prophète libanais, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ce sont les enfants de la vie. Et la vie vous a confié ses enfants pour les éduquer et ils doivent mener leur existence. Que cette existence vous plaise ou pas. Et nos conjoints ne nous appartiennent pas. Et quand j'entends quelqu'un me dire, tiens, je te présente Stéphanie, ma femme, j'ai toujours un tout petit peu de malaise. Je me dis, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon... Vous voyez, on a besoin de s'approprier. Or, il y a quelque chose qui peut faire plaisir, ça narcissise, ça peut faire du bien, mais au bout d'un certain temps, ça devient un peu dangereux. Et donc, je pense qu'il faut toujours savoir que l'autre ne nous appartient pas. C'est pour ça que l'amour vrai, l'amour profond, implique une forme de détachement. Et c'est une des choses qui est le plus difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que tous les courants spirituels et de sagesse nous disent qu'il faut être détaché ? Le détachement, ce n'est pas du tout ne pas aimer. Le détachement, c'est ne pas posséder. Et donc, il faut comprendre où ça se situe. Lorsque vous aimez votre enfant, votre chien, votre conjoint, peu importe, lorsque vous aimez un être qui est proche de vous, vous l'aimez avec votre cœur. Et vous vous attachez avec votre cœur, et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui n'a pas d'attachement du cœur, il n'aime pas. L'amour crée de l'attachement au niveau du cœur. Le détachement dont parlent les courants spirituels et de sagesse ne sont pas du tout au niveau du cœur. Ils sont au niveau de l'esprit. Et c'est ça la distinction fondamentale. C'est que l'esprit va nous permettre de nous détacher, c'est-à-dire de ne pas considérer que l'autre nous appartient. C'est du lâcher prise. Alors que le cœur nous attache totalement à l'autre. Et donc, je pense que la sagesse, c'est d'aimer avec tout son cœur, tout en étant détaché avec son esprit. Et de savoir que l'autre peut continuer de mener sa vie, que notre enfant peut faire des choix qui sont complètement différents du nôtre, peuvent nous quitter, peuvent aller vivre très loin, que notre conjoint peut un jour nous dire « je ne suis plus heureux ». Et j'ai envie de continuer la vie sans toi parce que je ne m'épanouis plus. Et c'est ça le détachement, c'est l'accepter, même si notre cœur souffre. Et donc ce type de détachement, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'excellence d'amour. Alors je voudrais juste terminer sur la différence que j'avais commencé à introduire entre la vie heureuse et la vie bonne. La vie heureuse, on le comprend, peut être assez égoïste. Si j'ai une famille que j'aime, un boulot que j'aime, je suis en bonne santé, j'ai une belle maison, je suis très heureux, mais je peux ne pas beaucoup me soucier du reste du monde. Et on connaît pas mal de gens comme ça. Et puis, à l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas grand-chose et qui s'occupent beaucoup des autres. Et on peut avoir beaucoup et s'occuper des autres. Et donc, on voit que ce n'est pas la même chose que de vivre en recherchant simplement son bonheur personnel, que de vivre en incluant le bonheur des autres dans son bonheur personnel. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je me dis, c'est essentiel de savoir que j'essaie d'être utile aux autres, que j'essaie que ma vie soit pas vide de sens, que ce soit pas simplement de gagner de l'argent, d'avoir une belle maison. Ça, ça m'apporte. Mais ce qui m'apporte aussi, c'est de savoir que ce que je fais, que les ouvrages que j'écris, que les fondations, les associations que j'ai créées puissent faire du bien aux autres. Par exemple, je suis très impliqué pour les animaux. Parce que je trouve que les animaux, ce sont des êtres qui ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas parler. Et on les utilise et on les maltraite à l'échelle planétaire. Non seulement par tout ce qu'on connaît de maltraitance qui existe partout, mais dans l'alimentation, c'est épouvantable. Quand vous voyez les 60 milliards d'animaux terrestres qui sont sacrifiés chaque année, 80% sont élevés dans des élevages industriels intensifs. C'est-à-dire que c'est des poules qui sont les unes sur les autres, qui n'ont aucune vie. Ce sont des vaches ou des moutons, etc., qui ont des existences, ou des cochons encore plus, des existences qui ne sont pas dignes d'être vécues et qui souffrent le martyre quand on les amène à l'abattoir. Et on voit les images de ce que ça donne, puisque la moitié d'entre elles ne sont même pas étourdies. Donc on voit à quel point la souffrance qu'on impose à ces êtres-là est insupportable. Et donc c'est pour ça que moi je me suis engagé depuis des années pour la cause animale. C'est parce que j'ai fait une pétition avec des amis intellectuels qu'on a déjà changé le code civil en faisant reconnaître l'animal comme un être sensible et pas comme un bien meuble. Ça c'était il y a quelques années. Et maintenant je me bats pour la création d'un label éthique qui permettrait d'avoir une traçabilité de la viande, de savoir comment les poulets, les cochons ont été élevés. Est-ce qu'ils ont eu accès à l'extérieur? Est-ce qu'ils ont été libres de mouvement, etc.? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Et ça permettrait de favoriser les éleveurs qui font le choix de la qualité et le choix du bien-être animal. Et pour ceux qui ne sont pas végétariens et qui veulent continuer à manger de la viande, eh ben, ça permettrait de dire ben, « moi je suis prêt à manger moins souvent de la viande, mais de manger de la viande avec des animaux qui ont beaucoup moins souffert ». Et je me bats avec le ministère de l'Agriculture, avec la FNSEA, etc., pour essayer de mettre en place cette traçabilité qui permettrait d'avoir un label éthique, comme pour les œufs. On peut choisir d'avoir des œufs 0, 1, 2, 3, 4, 5, on ferait la même chose. Donc cette association s'appelle Ensemble pour les animaux. Si ça vous intéresse et vous voulez aussi voir ou nous aider, vous pouvez aller voir sur le site ensemblepourlesanimaux.org. Mais ça me paraît essentiel de consacrer du temps, de l'argent, de l'énergie pour défendre les animaux, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Et je pense, comme le disait déjà Darwin, que le sommet de la moralité, c'est d'avoir de la compassion pour tous les êtres vivants, et pas simplement pour nos proches. Parce qu'avoir de la compassion pour ses proches, c'est facile, c'est naturel. Avoir de la compassion pour des êtres différents, des étrangers, des animaux encore plus différents, changement d'espèce, c'est un très haut degré de moralité, c'est-à-dire de désintéressement. Et donc je pense qu'il est essentiel, pour mener une vie bonne, ce n'est pas simplement, effectivement, de rechercher un bonheur individuel. C'est d'intégrer dans son bonheur individuel la dimension du bien-être collectif. C'est d'avoir envie de se battre politiquement, dans des syndicats, dans des mouvements, dans des associations, dans des ONG, pour améliorer le sort de l'humanité, et je dirais le sort de tous les êtres sensibles. C'est pour ça que je pense que le plus important, plutôt que de la vie heureuse, c'est la vie bonne, c'est la vie juste, c'est la vie qui nous permet de concilier autant qu'on le peut le bonheur avec la joie profonde de donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre un temps d'échange. Donc, j'imagine qu'il y a des micros qui circulent dans la salle. Voilà, ici. Donc, si vous souhaitez parler, alors petite précision, c'est bon de le rappeler. Comme vous êtes nombreux, si on veut prendre plusieurs questions, ne soyez pas trop long. Parce qu'il peut y avoir des questions, il peut y avoir des témoignages ou des critiques, mais ne soyez pas trop long pour que d'autres puissent parler. Merci beaucoup.
Frédéric, et Dieu dans tout ça?
Alors, première question, et Dieu dans tout ça? Dites-moi ce que vous appelez Dieu et je vous répondrai. Alors, c'est une boutade, mais c'est Einstein. On lui a dit, croyez-vous en Dieu? Et Einstein a répondu, dites-moi ce que vous appelez Dieu et je vous dirai si je crois en lui. Le problème, c'est que derrière le mot Dieu, il y a tout et n'importe quoi. Parce que si vous pensez à Dieu en parlant du Dieu de la Bible ou du Dieu de l'islam, ce concept-là n'est pas du tout celui du Dieu des stoïciens, qui parle de Dieu aussi. Ce concept-là n'est pas du tout le même que le dieu des hindous, qui parle de Dieu aussi. Et ce concept-là n'est pas le même que le dieu de Spinoza, qui parle tout le temps de Dieu, et qui ne croit pas du tout au dieu de la Bible. Et donc, et Dieu dans tout ça, ça veut dire, réfléchissez déjà à ce que vous entendez par Dieu. Alors, à titre personnel, J'ai cru à un moment donné, dans ma vie, dans mon parcours spirituel, au Dieu de la Bible. J'ai cru qu'il y avait un être personnel, qu'on appelle Dieu, qui a créé le monde, qui a choisi un peuple élu, le peuple juif, qui a parlé par les prophètes, qui s'est incarné en Jésus-Christ, et qui continue de nous inspirer, etc. Je n'y crois plus. Ça ne veut pas dire que je ne crois plus en Dieu. Je crois que Dieu est un mystère infini. Et pour moi, je crois beaucoup plus aujourd'hui au Dieu de Spinoza, qui n'est pas un Dieu personnel, qui a une volonté qui va créer le monde, qui n'est pas un Dieu qui se révèle à un peuple plutôt qu'à un autre. Je crois simplement que Dieu, c'est cette force qui anime le monde, que c'est l'intelligence et le cœur du monde. Ce que les anciens pouvaient appeler l'âme du monde. Ce qui fait que le monde vibre, ce qui fait que le monde, il y a de l'amour dans le monde, ce qui fait que le monde, il y a de l'intelligence dans le monde. C'est la conscience du monde. Et on est tous une étincelle divine. Donc voilà ce à quoi je crois aujourd'hui. C'est plus proche, encore une fois, du Dieu de Spinoza que du Dieu de la Bible. Oui, c'est-à-dire que... Et là, vous posez une nouvelle distinction en parlant de spiritualité. On pourrait faire une distinction entre spiritualité et religion. C'est que la religion est beaucoup liée à la culture. Et la religion est une dimension collective et culturelle. Je dirais même politique. Dans l'histoire des religions, on voit toujours que les religions se développent en lien avec le pouvoir politique parce qu'elles ont une fonction fondamentale, c'est de créer du vivre ensemble. Les religions créent du lien social. Homo sapiens est devenu aussi puissant parce qu'il était religieux. Et que donc il croyait dans un invisible qui le dépasse, et que cet invisible donnait des croyances et des rituels collectifs qui permettaient à des individus très nombreux dans une cité qui ne se connaissaient pas d'avoir en même temps quelque chose en commun, on croit dans cette transcendance qui nous dépasse. Et Régis Debray, dans sa critique de la raison politique, nous montre qu'il n'y a rien de mieux que la religion pour créer du lien politique. Parce que quand il y a des millions d'individus, voire des milliards qui croient au même Dieu, ça crée du lien. Et ce Dieu-là, on ne pourra jamais le critiquer puisqu'on ne le voit pas. Donc l'invisible est beaucoup plus fort que le visible. Donc la meilleure légitimité du politique, c'est de l'invisible. Et donc, on le voit très bien dans le politique. Quand George Bush veut faire la guerre à Saddam Hussein avec un seul objectif inavoué, qui est une guerre économique, une conquête économique, il ne va jamais dire ça. Il va dire qu'il faut faire la guerre du mal contre le bien, du bien contre le mal. C'est une croisade. Et lorsque Saddam Hussein veut se protéger de Bush, alors qu'il est totalement athée, il va appeler au djihad contre le grand Satan américain. Terminologie religieuse. Dès qu'on est dans du religieux, on est dans du collectif et on est dans un lien politique. Donc le religieux s'est développé dans toutes les sociétés pour créer du lien social. Et après, il est fondé sur une transcendance. C'est-à-dire sur une croyance dans un invisible qu'on peut appeler Dieu ou autrement. Parce que les bouddhistes ne croient pas en Dieu, mais c'est quand même une religion. Ils ont des valeurs partagées, des rituels partagés, des croyances partagées. Et donc le religieux a cette dimension collective. La spiritualité, c'est individuel. La spiritualité, c'est la quête d'une vie bonne. C'est quel est le but de la spiritualité? C'est d'être le meilleur humain possible. C'est de s'améliorer. C'est de grandir par la force de l'esprit. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui nous permet d'orienter notre vie vers le bien, vers le mal, vers ce qui est bon, vers ce qui est mauvais, vers des choix de vie. Et donc, c'est notre esprit. Donc la spiritualité, c'est le travail de l'esprit en vue de l'amélioration de l'être humain. Et c'est éminemment individuel. Alors vous avez des gens... Vous avez de la spiritualité dans la religion et vous avez de la spiritualité hors religion. Et vous avez des gens qui sont religieux et spirituels et vous avez des gens qui sont spirituels et pas religieux et vous avez des gens qui sont religieux et pas spirituels du tout. Les gens qui se font exploser au nom de la religion ne sont pas du tout spirituels parce qu'ils n'améliorent absolument pas l'humanité. Et donc on voit très bien qu'il faut aujourd'hui distinguer, et je vous remercie de me le faire faire, les notions de religion et de spiritualité. Ça peut être congruent, ça peut être totalement différent. Et d'ailleurs, je vais peut-être en choquer certains chrétiens, pour moi, Jésus est beaucoup plus spirituel que religieux. Il a un message d'amour universel. Et quand la femme samaritaine, qui est une femme qu'il rencontre, qui n'est pas juive, qui est une secte dissidente du judaïque, les samaritains, les juifs et les samaritains se détestaient, elle lui pose la question, mais je vois que tu es un prophète, parce qu'il a deviné qu'elle avait plusieurs maris, etc. Bon. Et du coup, elle lui dit, mais où est-ce qu'il faut adorer Dieu ? Est-ce qu'il faut adorer Dieu sur la montagne de Jérusalem ou dans le temple de Samarie comme le font les Samaritains? Ou est-ce qu'il faut adorer Dieu dans le temple de Jérusalem comme vous les Juifs vous le dites? Et Jésus qui est juif et pratiquant va lui répondre cette chose incroyable. Ni l'un ni l'autre. Il ne faut adorer Dieu ni dans le temple de Jérusalem ni sur la montagne de Samarie parce que Dieu est esprit et qu'il faut adorer Dieu en esprit en vérité. Il est en train de dire c'est comme si on lui posait la question, quelle est la religion vraie? Il dit aucune. Le christianisme n'est pas plus vrai que le bouddhisme, que l'hindouisme, pas plus vrai. Ce qui est vrai, c'est d'écouter Dieu dans son cœur. C'est de suivre sa conscience. Et ben, il nous sort de la religion. C'est pour ça que mon ami, le philosophe Marcel Gaucher, nous dit que le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Et c'est elle qui a amené en Occident l'humanisme des droits de l'homme. Malgré l'Église, qui elle est redevenue très religieuse. Parce que Jésus, ça a été une parenthèse, et très vite, avec la conversion de l'Empire sous Constantin, et surtout sous Théodose à la fin du IVe siècle, eh ben, le christianisme est redevenu une religion comme les autres, qui prêche un message d'amour, de liberté, d'égalité formidable, mais qui va retomber dans la puissance, le pouvoir, la domination, la culture, les hérétiques sont condamnés. Vous savez, saint Augustin, le préfet Faustus lui écrit, que faut-il faire des hérétiques? Il dit les brûler. On a les textes. C'est-à-dire qu'il vaut mieux tuer un être humain s'il met en danger la religion de l'Empire. Donc vous voyez, on est parti, la religion est revenue, Jésus nous libère de la religion est revenue. Et en même temps, la religion peut être utile. Bien sûr qu'on a besoin aussi de rituels, on a besoin de croyances partagées, et que ça peut être soutenant dans les décès, dans les naissances. C'est un accompagnement de la vie, les religions. Mais il faut avoir de la spiritualité. Parce que de la religion sans spiritualité, c'est dramatique. Je dirais que les deux menaces, en attendant qu'on donne la question, les deux menaces de notre monde d'aujourd'hui, ce sont deux opposés qui se ressemblent. C'est d'un côté le fanatisme religieux, et c'est d'un autre côté le matérialisme consumériste. Les deux sont les grandes choses qui sont en train de détruire le monde et de se faire la guerre. Et ils ont quelque chose, ils ont l'air totalement différents, et pourtant ils se ressemblent. Vous savez qu'ils se ressemblent, ça semble. Ils se ressemblent pourquoi? Parce que dans les deux cas, qu'est-ce qui est oublié? C'est l'intériorité de l'être humain. Les fanatiques religieux n'ont aucune intériorité. Ils sont que dans l'extériorité de la religion, ce qui se voit, le signe apparent, l'identitaire, le politique. Et le matérialisme consumérisme favorise l'extériorité de l'homme, l'argent, le pouvoir, et pas l'intériorité, l'amour, le bonheur profond, etc. Et donc je pense que ce qui sauvera le monde du matérialisme consumérisme et du fanatisme religieux, c'est la spiritualité et la philosophie dans cette dimension existentielle.
Du coup, par rapport à la philosophie, moi je vais vous demander comment est-ce que vous placez le stoïcisme par rapport, parce que vous avez pas mal parlé de l'épicurisme, du plaisir, etc. Et comment est-ce que vous placez le stoïcisme par rapport à l'épicurisme, le fait de contrôler ses émotions?
Alors, ils ont beaucoup de points de ressemblance, ils ont une grosse différence. C'est que l'épicurisme, c'est une sagesse de la raison. C'est pour Épicure, essentiellement la raison qui nous permet d'être heureux, par le discernement, la phronésis qui nous permet de discerner, de distinguer, et c'est la raison qui va nous permettre de hiérarchiser notre vie, de faire des bons choix, et donc d'être heureux. Dans le stoïcisme, l'essentiel, c'est la volonté. Ce qui nous permet d'orienter notre vie, d'être heureux, c'est de vouloir. Si tu veux, tu peux. Ça pourrait être une devise stoïcienne. C'est-à-dire, parce que tu veux, tu vas supporter telle chose, tu vas t'engager dans telle chose. Et donc, je dirais que l'un met l'accent sur la raison et l'intelligence, le discernement, l'autre met l'accent sur la volonté et l'engagement. Mais ils ont beaucoup de points communs, puisque dans les deux cas, ils prônent un bonheur intérieur qui est lié à notre esprit et pas uniquement aux conditions extérieures. Et dans les deux cas, ils prônent l'attention. Il faut être présent, ici et maintenant. Je vais très vite, hein, mais on n'a pas le temps d'aller plus loin.
Bonsoir, merci pour tout ce que vous nous apportez, d'abord. J'ai cru comprendre que l'éthique était difficilement abordable, et je voulais savoir si vous aviez vulgarisé ce que Spinoza voulait nous apporter dans l'éthique quand vous avez écrit le miracle Spinoza. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des éléments que vous n'avez pas transmis par peur d'être incompris?
Alors effectivement, moi Spinoza, c'est un philosophe que j'ai découvert récemment. Quand j'ai fait mes études de philo, on m'a jamais parlé de Spinoza. On m'a parlé de Kant, de Nietzsche, de Hegel, jamais de Spinoza. Et j'ai découvert Spinoza il y a 7-8 ans, lorsque j'ai commencé à écrire mon livre sur le bonheur. Et donc, Le bonheur, un voyage philosophique, je m'intéressais à tous les grands philosophes qui ont parlé du bonheur dans un débat contradictoire. Et là, j'aborde Spinoza et je suis ébloui. C'est-à-dire, je m'aperçois, bon, d'abord j'ai du mal, mais je sens qu'il faut que je m'accroche, et j'ai lu 20 fois l'éthique. Et ça m'a tellement parlé que j'arrêtais pas d'en parler dans toutes mes conférences, en disant Spinoza, c'est pareil. Et après, j'ai écrit La puissance de la joie, qui est encore plus axé sur Spinoza. Et puis, à un moment donné, les gens me disent, mais vous arrêtez pas de parler de Spinoza, vous pourriez pas écrire un livre sur Spinoza. C'est venu comme ça. C'est d'ailleurs, je me suis dit, ça m'a tellement intéressé, tellement passionné, parce que Spinoza, c'est quand même incroyable. D'abord, j'aime l'homme. C'est un homme admirable, qui a un courage incroyable. Bon, je vous parle 3 minutes de Spinoza. Allez, petite parenthèse, on aime parler de ses amis. Donc Spinoza, pourquoi je l'aime? Parce que Spinoza, il naît dans un ghetto juif à Amsterdam, au début du XVIIe siècle, et il est élevé dans la culture très puissante du judaïsme, il parle hébreu couramment, il y fréquente l'école talmudique, et à l'âge de 13-14 ans, il commence à poser des questions qui dérangent. Et il dit au rabbin, mais comment est-ce que ça peut être Moïse qui a écrit la Torah, puisqu'il nous est raconté la mort de Moïse dans la Torah? Comment quelqu'un qui est mort peut raconter sa propre mort? Ah, les voies de Dieu sont impénétrables. Bon, et puis ça continue comme ça. Et Spinoza démontre, adolescent, toutes les contradictions qu'il y a dans la Bible. Et il y en a des centaines. Et donc, et puis il nous dit, d'un côté on nous dit Dieu est amour et tout, puis après on nous dit qu'il faut tuer tous les philistins, etc., parce que c'est pas contradictoire. Et donc il découvre que la Bible, c'est une accumulation de récits très différents les uns des autres, écrits par des personnes très différentes les unes des autres, dans des contextes différents, qui ont des intentions politiques différentes. Il est exclu de la communauté juive. Il est banni avec une violence inouïe, un RM qui l'exclut et le maudit définitivement. On tente de l'assassiner et il va vivre une vie très solitaire. Puisqu'il est tombé fou amoureux, il s'est intéressé à la philosophie, on commençait à découvrir Descartes, il a un professeur, un humaniste qui lui enseigne la philosophie, sa fille est professeure de piano, il tombe amoureux de la fille. Et la fille lui dit, il faudrait que tu te convertisses au catholicisme pour que je veuille bien t'épouser. Et lui qui venait de quitter le judaïsme, c'était pas pour se convertir au catholicisme. Donc il est resté fidèle à ses convictions, il a refusé de se convertir et il est resté seul toute sa vie. Donc c'est un homme qui a un courage et une fidélité à ses convictions extraordinaires. Et il est resté tout le temps joyeux, malgré sa solitude. C'est un homme, il était malade, il a voulu vivre, alors qu'on lui a proposé, il y a plusieurs mécènes qui lui ont proposé beaucoup d'argent, il a toujours refusé, en disant je veux vivre très simplement, et je veux surtout gagner ma vie. Et donc il polissait des verres, qui ont fait des verres de lentilles, des verres de lunettes, des verres pour des télescopes, et il paraît que ces verres étaient très prisés dans toute l'Europe, et Spinoza de son temps était plus connu comme polisseur de verres que comme philosophe, puisque sa philosophie était cachée, et qu'il écrivait sous pseudonyme. Et donc, Spinoza, je trouve merveilleux qu'il polissait des verres pour nous aider à voir mieux avec le corps et qu'il construisait une œuvre qu'est l'éthique qui nous aidait à voir mieux avec les yeux de l'esprit. Je trouve ça magnifique. Et cet homme-là qui est mort malade, très jeune, etc. et tout, a laissé le plus grand livre de l'histoire de la philosophie, dans lequel il nous montre que le corps et l'esprit ne font qu'un. Juste après Descartes, c'est une révolution. Et aujourd'hui, presque tous les scientifiques, les biologistes sont totalement d'accord avec Spinoza. On ne peut pas séparer les deux comme ça. Ils fonctionnent toujours ensemble. Ils nous montrent que Dieu et la nature, il ne faut pas les opposer. Donc c'est la métaphysique moniste qui rejoint l'Inde, d'ailleurs, où il n'y a pas d'opposition entre Dieu et le monde. Ils nous montrent que la morale doit être fondée sur la joie et non pas sur le devoir. Ils nous montrent qu'il faut lire les textes des Écritures avec un esprit critique et un discernement et pas les prendre à la lettre, etc., etc. C'est le pionnier de la psychologie des profondeurs, puisqu'il est le premier à nous dire nous sommes entièrement mus par notre inconscient. Et lorsque nous croyons agir librement, en fait, nous agissons en fonction de nos désirs et de nos émotions inconscientes. 350 ans avant Freud. Donc c'est un génie absolu qui, en même temps, a été un homme voilà, qui a une vie simple, humble, joyeuse. Et c'est vraiment un ami. Donc j'avais envie de le faire connaître.
Le dernier mot de votre de l'introduction était le mot prière. Et j'aimerais vous entendre parler de la prière et de la méditation.
Tout à fait, puis c'est des choses concrètes. Voilà des exercices spirituels, parce que j'ai parlé de spiritualité, j'ai pas parlé d'exercices spirituels. Et la prière et la méditation sont deux exercices spirituels fondamentaux. Je vais commencer par la méditation, parce que c'est le plus simple. La méditation, c'est simplement une pratique de l'attention. Alors, on va dire qu'il y a deux types de méditation dans les traditions, notamment orientales. Le premier stade, c'est d'arriver à calmer le mental. Parce que vous savez qu'on est tout le temps en train de penser, on est agité, on n'est pas présent. Je vous disais tout à l'heure, on n'est pas présent à ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'on pense toujours. Et donc, depuis 2500 ans, les orientaux ont pratiqué la méditation qui consiste simplement à quitter l'agitation des pensées, à les laisser passer, à les observer, pour ne plus s'impliquer dans les pensées, mais les observer comme quand vous êtes dans le train. Quand vous êtes dans le train, vous voyez défiler le paysage. Vous allez voir une vache. Ben, vous n'allez pas penser à la vache pendant 25 minutes. Après, vous allez voir une église. Puis après, vous allez voir un tracteur. Puis vous allez laisser passer le paysage et vous continuez de regarder. Et ben, la méditation, c'est pareil. Il y a une pensée qui arrive. Tiens, j'ai oublié d'acheter du chocolat. Et ben, si vous arrêtez de méditer, vous allez penser, tiens, il faut que j'aille acheter du chocolat. Oh, mais le Monoprix va être fermé. Ah, mais la voisine a du chocolat. Enfin bon. Et on passe son temps à ruminer. Alors que si vous méditez, vous dites, tiens, j'ai envie de chocolat. Et puis vous laissez passer la pensée. Vous ne la suivez pas. Et pour ne pas suivre les pensées, vous remettez toujours votre attention sur le souffle, sur le corps, sur les sensations, sur la respiration. Ça vous ancre dans des sensations. Et du coup, ça permet d'être ancré et de calmer le mental. Et pour les enfants, c'est fabuleux. Je vous disais à Sèvres, on fait précéder les ateliers philo de 2 minutes de pratique de l'attention. Et on leur fait faire ce petit exercice, observez les pensées, laissez-les passer, revenez à votre souffle, revenez à votre corps. Et ça change la vie des enfants. Ils sont toujours hyper connectés, hyper stressés, parce qu'ils pensent tout le temps. Et à la fin de l'année scolaire, moi je demande toujours aux enfants, est-ce que vous continuez de méditer chez vous? Parce qu'à l'école, ils adorent. Et d'ailleurs, plein d'enseignants me disent, moi on les fait méditer 2 minutes tous les jours, on a la paix. Parce que ils sont totalement plus attentifs, plus calmes et tout. Et des fois, ils nous disent, madame, est-ce qu'on peut méditer? Parce qu'on est un peu nerveux, là. Donc vous voyez, si vous êtes enseignant, c'est royal. Et les enfants, à 70%, me disent qu'ils continuent de pratiquer chez eux cette pratique de l'attention. Je préfère parler de pratique de l'attention parce que le mot méditation peut être connoté religieusement, c'est pas du tout ce qu'on fait. Et donc, et je dis pourquoi. Et certains me disent, ben, parce que j'arrive pas à dormir le soir, je médite un peu, j'arrive à dormir. D'autres me disent, parce que quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer dans ma chambre, après ça va, je suis calmé. Donc ils gèrent leurs émotions comme ça. Et puis il y en a un qui me dit un jour, mon père est chef d'entreprise, il est hyper stressé, je lui ai appris à méditer, ça va beaucoup mieux à la maison. Vous voyez, les enfants nous transforment. Donc la méditation, premier niveau, pratique du calme mental, qu'on appelle samatha en sanskrit. Et deuxième niveau, alors là on entre beaucoup plus dans de la spiritualité. Le premier niveau, il est très laïque. Ça peut se faire ce qu'on appelle en anglais la mindfulness, ou en français la pleine conscience, on pourrait dire pleine attention, pleine présence. Il s'agit d'être là, ici et maintenant. Ça, très laïque. Deuxième niveau, beaucoup plus spirituel. C'est qu'il s'agit progressivement, en méditant de plus en plus, de devenir l'observateur de son ego et de son mental. Et donc on observe son ego, on s'observe, on observe son moi, ses réactions, ses émotions, etc. On observe son mental, ses pensées, et on s'en distancie de plus en plus pour les lâcher. Et plus on médite, plus on lâche l'ego, plus on lâche le mental, et plus on réalise ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire notre être profond. Et dans toutes les grandes spiritualités d'Orient et d'Occident, il y a l'idée qu'on a un être profond intérieur. Notre identité véritable, ce n'est pas notre moi, c'est notre soi. Et le soi, il est d'essence divine, il participe à ce tout universel qu'on appelle Dieu, et c'est une étincelle de cette essence divine. Et donc lorsqu'on réalise le soi, ou qu'on atteint l'éveil dans le bouddhisme, c'est la même chose, c'est qu'on a lâché l'ego. On cesse de s'identifier à ce petit moi qui s'oppose aux autres et qui est en dualité avec le monde et avec les autres. Et donc il y a plein de gens qui font des expériences mystiques comme ça, qui sans méditer régulièrement, des fois ils sont... On parlait d'André Comte-Sponville qui est venu ici, moi il m'a dit, j'ai fait des expériences où j'ai complètement lâché l'ego. Parce que j'étais dans la nature, j'étais tellement ému que mon cœur était plein d'amour et je sentais que je faisais qu'un avec la nature. C'est des expériences de type mystique ou de type d'éveil. Et on est nombreux à en avoir fait, dans lequel on sent qu'on n'est plus ce petit moi individu séparé devant la beauté du monde, ou dans un acte d'amour. Ça peut arriver dans toutes sortes de moments. Et à ce moment-là, le but de la méditation de manière spirituelle, c'est d'entraîner l'esprit à lâcher l'ego, à lâcher le moi. Alors la prière. La prière, la différence entre la méditation et la prière, les objectifs peuvent être les mêmes, sauf que ce n'est pas tout à fait pareil, puisque la prière, c'est une méditation avec objet. Quand vous méditez, vous n'avez pas d'objectif. Vous êtes ici et maintenant, présent à ce qui est, et vous laissez, vous observez, vous grandissez. Dans la prière, vous êtes relié à quelqu'un. Donc l'objet, c'est Dieu. Ou ça peut être le Christ, la Vierge, un saint, ou ça peut être le monde. Enfin, il y a quand même l'idée d'un être ou d'une personne à qui on se relie. Et donc la prière, il y a plus un dialogue, il y a plus un échange, il y a plus une rencontre. Et dans ce sens-là, la prière peut toucher le cœur de manière très profonde. Parce qu'à partir du moment où vous vous reliez à un personnage ou à un Dieu amour, eh ben, vous vous imprégnez de cette rencontre, de cette relation. Et donc on pourrait dire, d'ailleurs saint Thomas d'Aquin définit la prière comme un cœur à cœur avec Dieu. C'est pas autre chose. C'est un cœur à cœur. C'est lié pour faire grandir l'amour. Et quand on prie, ben souvent, il y a de la demande, évidemment. On peut demander quelque chose parce qu'on a besoin et tout. Mais il y a aussi de la communion. Il y a aussi l'idée d'être en relation. Et donc, la prière est plus religieuse que la méditation. La méditation, on peut la laïciser complètement. Mais en même temps, il peut y avoir des prières. Moi, ça m'arrive de prier. J'aime beaucoup le Christ et je prie le Christ parce que je pense qu'il est vivant. Je ne crois pas du tout qu'on meurt après. Ah oui, petite parenthèse, vous ne m'avez pas posé de question là-dessus, alors je vais répondre. Je crois en l'immortalité de l'âme, voilà. Je pense qu'après la mort, la vie continue. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça en tant que philosophe, parce que je n'en sais strictement rien. Je ne suis jamais mort, je ne suis pas revenu pour vous le dire. Par contre, j'ai l'intime conviction, en tant qu'être humain, non philosophe, non scientifique, j'ai l'intime conviction, non religieuse non plus, ce n'est pas le fruit d'une révélation, j'ai l'intime conviction que la vie commence avant notre naissance et que la vie continue après notre mort, et que la naissance et la mort, ce sont deux passages, deux moments, et qu'il s'agit de se préparer à ce moment important de passage vers une vie qui continue. Donc je pense que tous ceux qui nous ont précédés sont encore vivants, y compris le Christ, et comme j'aime beaucoup le Christ, je le prie souvent pour lui demander de m'aider un peu parce que j'en ai bien besoin. Il y a encore des valeurs universelles ? Ou est-ce que tu... J'entends pas. Alors, attendez, on va vous donner un micro.
Merci, excusez-moi. Oui, ma question, c'est simplement, est-ce que tout est devenu relatif dans le monde ? Ou bien, est-ce qu'il y a encore possibilité d'avoir des valeurs universelles et sur quoi les baser ?
Alors, je suis convaincu qu'il y a des valeurs universelles et on peut les baser sur la raison. C'est ce que fait par exemple Spinoza, hein, ou Kant, ou tous les grands philosophes nous disent que c'est la raison universelle qui nous permet d'avoir des valeurs universelles. Parce que la raison est la même chez tous. Je vous parlais des enfants. Je suis frappé de voir le caractère universel de la raison des enfants. Parce que j'ai fait des ateliers philo dans toute la francophonie. J'en ai fait à Abidjan, j'en ai fait à Pointe-à-Pitre, j'en ai fait à Genève, j'en ai fait à Bruxelles, j'en ai fait en Corse. Et on entend des réponses similaires partout qui viennent d'une observation rationnelle du monde. Je vous parlais tout à l'heure, je vais vous donner un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de la différence entre la vie heureuse et la vie bonne. Je fais souvent des ateliers de philo où je pose la question aux enfants, pour vous c'est quoi réussir sa vie ? Et ça pose la question des valeurs. C'est quoi pour vous réussir ? Une vie réussie c'est quoi ? Et une fois je fais cet atelier avec des enfants de 9 ans à Paris. Et les enfants commencent à dire, ben, réussir sa vie, c'est être heureux. Et ils sont assez nombreux à dire ça. Puis il y en a un qui dit, avoir une vie réussie, c'est mourir sans regret. Putain, je me dis, c'est pas mal ça. Et puis, ils discutent et ils se mettent d'accord en disant, non, finalement, si on a été heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Et puis il y en a un qui n'est pas d'accord. C'était juste après les attentats du Bataclan. Et il dit, je ne suis pas d'accord, parce que les terroristes, ils ont tué des gens, ils étaient heureux. Ils étaient heureux d'avoir tué des gens. Eh bien, je ne peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Alors, je lui dis pourquoi. Parce qu'il dit, pour moi, réussir sa vie, peut-être c'est être heureux, mais sans faire du mal aux autres. Sans faire son bonheur sur le malheur des autres. Et donc, ils discutent tous, puis ils convainquent toute la classe. Et il y en a qui dit, oui, il faut être juste, il faut partager, il faut être gentil. Et donc, ils impliquent la notion de justice à la notion de bonheur pour réussir sa vie. Ils sont unanimes là-dessus. Un riche égoïste, il est heureux, il n'a pas réussi sa vie. Alors que quelqu'un qui a pratiqué la justice, il a réussi sa vie, même s'il n'a pas toujours été heureux. Et donc, ils sont montés très loin en puissance. Et je lui dis, tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans, qui s'appelle Socrate, qui a dit exactement la même chose que toi. Il me dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Ça s'appelle la raison universelle. Et c'est là-dessus qu'on peut fonder les valeurs, dont la justice est la valeur cardinale.
Il y a quelque chose qui me manque, en fait. Vous n'avez pas beaucoup parlé des émotions. Vous avez parlé effectivement, bon, votre expérience par rapport à la voiture, à la fourvière. qui vous a mis dans une colère. Mais on est tous avec des émotions.
Et une joie, et une joie. Oui, une colère qui s'est transformée en joie par le lâcher prise.
Tout à fait, tout à fait. Mais je veux dire, ces émotions, on ne sait pas toujours comment les gérer. Et c'est vrai que, bon, par rapport à mon histoire personnelle, le fait aussi d'accueillir l'émotion, de la reconnaître, et on peut parler de toutes ces émotions, que ce soit les peurs, que ce soit, voilà, la joie aussi, que ce soit la tristesse, le simple fait de la reconnaître, de l'aimer aussi, peut permettre de passer justement à la joie. Et c'est vrai que dans notre vie, dans la réalité, nous avons beaucoup, beaucoup d'émotions. Peut-être plus nous adultes que les enfants, hein, les jeunes enfants.
Non, ils en ont beaucoup.
Comment ?
Ils en ont beaucoup. Les petits enfants sont que dans l'émotion.
Voilà. Et je trouve que c'était un côté un petit peu occulté. Mais merci pour, voilà, pour tout le reste qui est magnifique.
Écoutez, je vous remercie de votre témoignage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Notre vie, c'est d'abord des émotions. J'en ai un peu parlé, à droite, à gauche, mais on peut en dire encore un mot quelques minutes pour compenser le fait que j'en ai pas assez parlé dans la conférence. Donc effectivement, nous sommes d'abord des êtres d'émotions, comme tous les êtres vivants, comme tous les animaux. Les animaux sont bourrés d'émotions, comme nous, ils ont les mêmes émotions. Et donc, le propre du vivant, c'est d'avoir des émotions. Et après, on a des niveaux de conscience et d'intelligence très différents. Mais les émotions sont ce qu'il y a de plus universel dans le vivant. Et donc, c'est ce qui fonde profondément notre appartenance à la vie, c'est d'avoir ces ressentis émotionnels dont les principaux sont la tristesse, la colère, la peur et la joie. Puis il y en a d'autres, la honte, le dégoût, etc. Mais les principaux sont ceux-là. Et je dirais, ce qui fait la richesse d'une vie, c'est la qualité, effectivement, de sa richesse émotionnelle. Et donc, si vous coupez vos émotions, vous passez à côté de la vie. Et il est très important, comme vous le dites, déjà d'accueillir son émotion, de la reconnaître. Je suis tout à fait d'accord. Et aucune émotion n'est bonne ou mauvaise en soi. Aucune. Après, ce qui devient bon ou mauvais, c'est la manière dont on la laisse se développer, dont on la gère ou pas. Et donc, en soi, on ne peut pas dire, par exemple, la peur, la tristesse et la colère, c'est mal. La joie, c'est bien. Pas du tout. Spinoza nous a montré qu'il y a des joies passives. C'est-à-dire qu'il y a des joies qui sont fausses, qui sont fondées sur des idées inadéquates qui peuvent nous entraîner à des catastrophes. Et donc, il peut y avoir des joies très négatives si elles sont liées à des idées inadéquates. Comme il peut y avoir des peurs qui nous sauvent la vie. Heureusement qu'on a des peurs. Parce que des fois, ça vous évite des dangers et vous pressentez un danger. Mais la peur devient un problème lorsqu'elle vous inhibe dans l'action. Et donc, la peur est nécessaire parce qu'elle nous avertit d'un danger, elle nous sauve la vie, mais elle devient un problème lorsque la peur nous submerge et qu'on ne peut plus agir et qu'on manque de discernement à cause de la peur. Ou qu'on va voter à cause de la peur. Et c'est ce que nous dit Spinoza. Il nous dit le drame des démocraties, alors qu'il est le prophète des démocraties. Spinoza, c'est le pionnier des démocraties modernes. Un siècle avant Voltaire, Kant et tout, il nous dit le meilleur système politique, c'est le système démocratique, qui sépare le politique du religieux et qui garantisse la liberté de conscience et d'expression. Il dit ça, vous rendez compte, un siècle avant les Lumières. Et il nous dit que ce n'est pas suffisant, parce que l'être humain, s'il vote avec ses émotions, il va élire des dictateurs et des démagogues. Hitler a été élu démocratiquement à cause du ressentiment du peuple allemand. Trump vient d'être élu démocratiquement à cause de la peur et de la colère d'un certain nombre d'Américains. Et nous, on y a échappé. Mais on voit très bien qu'on peut voter avec nos émotions. Et c'est très dangereux. Il faut savoir voter avec sa raison, même si on a des émotions. Mais si on vote avec sa colère, on peut vivement le regretter. Parce que l'émotion a besoin d'être éclairée. C'est pour ça que les émotions, c'est ce qui fait notre humanité, nos ressentis, nos qualités de relation à la vie, l'intensité de la relation à la vie, mais l'émotion a besoin d'être accompagnée par la raison. Et notamment, dans le cadre de l'engagement politique, la colère ne suffit pas. Il faut aussi de la réflexion. Et dans le cadre de la vie amoureuse, la joie ne suffit pas, il faut aussi du discernement. Donc vous voyez, les émotions sont essentielles. Aucune n'est bonne ou mauvaise en soi. Elles demandent toutes d'être discernées et d'être gérées afin de contribuer avec la raison et la volonté, émotion, raison, volonté, afin de contribuer à nous donner une vie meilleure, à nous permettre de grandir en humanité, à nous permettre de nous accomplir. Et donc, c'est pour ça que Spinoza nous dit, il ne faut pas opposer l'esprit et les émotions. Les deux travaillent ensemble et ont besoin en permanence l'un de l'autre.
Bonsoir, donc déjà merci pour votre conférence. Depuis quelques mois, enfin même quelques années, on parle beaucoup, beaucoup du bonheur. On peut trouver des dizaines et des dizaines de magazines qui nous disent comment trouver le bonheur. Et donc, il faut absolument trouver le bonheur. Enfin, on a l'impression qu'il faut absolument trouver le bonheur et ça devient une espèce de Graal. Et est-ce qu'on ne peut pas devenir malheureux à trop chercher le bonheur?
Tout à fait. L'injonction au bonheur rend malheureux. Déjà, lorsque, et ça a été même prouvé, que les gens qui recherchent de manière obsessionnelle le bonheur sont toujours malheureux. Parce que vous n'êtes jamais totalement heureux. Le bonheur est très imparfait. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit progressivement comme un état, je le disais, d'amour de la vie. Mais on passe par beaucoup de moments difficiles, par des hauts, des bas, etc. Et donc la recherche d'un bonheur qui serait une sorte d'état de joie permanente, c'est extrêmement rare et difficile. Et pour y arriver, Spinoza y est arrivé. Mais pour y arriver, c'est une vie entière. Et donc je crois que se donner cette exigence-là, c'est écrasant. Et donc du coup, beaucoup de gens sont malheureux de ne pas atteindre un bonheur permanent et total. D'autre part, deuxième problème, donc l'injonction au bonheur est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est que le bonheur n'est pas la finalité de la vie humaine. Je viens de vous le dire, pour moi, la finalité de la vie humaine, c'est plutôt d'essayer de s'accomplir en tenant compte des autres, en essayant d'avoir une vie bonne, d'être juste, de partager. Et donc, si on fait du bonheur l'absolu de la vie humaine, ben finalement, au nom de mon bonheur personnel, je peux écraser les autres. Et donc, pour moi, il y a une éthique de vie qui implique des valeurs qui ne sont pas uniquement la poursuite du bonheur. Donc déjà, deuxième problème. Troisième problème, de quel bonheur parle-t-on? Et quand on vous dit aujourd'hui, il faut être heureux, mais si vous regardez la publicité qui vous dit ça, c'est le bonheur matériel. C'est avoir une belle maison, des enfants dans le jardin, le chien, la grosse voiture. C'est ça le modèle du bonheur qu'on nous vend. Et ce n'est pas, comme je vous l'ai expliqué tout au long de cette conférence, le bonheur le plus vrai et le plus profond. C'est un des aspects du bonheur, mais je crois que le bonheur le plus vrai et le plus profond, c'est la qualité des relations qu'on a avec les autres, c'est de bien faire son travail, c'est d'apprendre à aimer la vie. Et tout ça, ça ne nous est pas montré du tout dans la publicité. Donc ça pose trois problèmes, la manière dont on parle du bonheur aujourd'hui. D'abord parce que c'est une injonction, ensuite parce que je crois que ce n'est pas un absolu, et enfin parce qu'effectivement c'est un bonheur matérialiste qu'on nous propose. Et puis j'ajouterais, on a le droit de ne pas vouloir être heureux. Et j'ai des amis qui disent « le bonheur, ça me fait chier ». Je préfère l'intensité de la passion qui me rend malheureux au bonheur qui me rendrait un peu, la vie un peu fade. Donc on peut tout à fait choisir aussi de ne pas être heureux. Donc ça avait beaucoup de raisons pour relativiser l'idée de bonheur. Même si, cela étant dit, la poursuite du bonheur est quand même assez universelle. C'est-à-dire derrière tout ce qu'on fait, il y a la recherche d'un état de satisfaction, il y a la recherche de faire quelque chose qui nous épanouisse. Mais l'épanouissement de soi, c'est aussi un problème. Puisque, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, La fatigue d'être soi. J'adore le titre, La fatigue d'être soi. C'est un psychiatre, enfin un historien de la psychiatrie qui s'appelle Alan Ehrenberg, qui a écrit ce livre dans lequel il montre, il a fait une étude sur les maladies psychiques, et il montre que la grande maladie psychique du XXe siècle, c'est la névrose, c'est-à-dire le conflit entre le ça et le surmoi. Donc vous avez des pulsions, la morale religieuse, républicaine, tout ce que vous voulez, vous l'interdit, vous êtes névrosé. Et il nous dit, c'est plus du tout le cas au XXIe siècle. Puisqu'il n'y a plus d'interdit, quasiment, donc le surmoi a considérablement diminué, et donc c'est plus la névrose qui est la maladie du XXIe siècle, c'est la dépression. Et la dépression, c'est l'impossibilité de s'accomplir. Puisque, et il ne le dit pas, mais c'est moi qui le dis, le nouveau surmoi de notre temps, c'est l'accomplissement de soi. Tu dois être heureux, tu dois réussir ta vie, tu dois être le meilleur, c'est la compétition, c'est la performance. Et lorsqu'on n'est pas le meilleur, le plus compétitif, le plus heureux, on s'effondre. C'est ce qu'on appelle la dépression. Parce que l'objectif est trop élevé et il est parfois tout à fait inadapté. Et dans le culte moderne de la performance et de la compétition, eh ben, y a plein de gens qui sont dépressifs. Voilà, voilà.
Dans le processus du bonheur, vous avez assez peu parlé du travail qui occupe pourtant une grande partie de notre existence. Est-ce que vous croyez, comme avec Camus, que Sisyphe puisse être heureux?
Sisyphe, ça m'étonnerait qu'il puisse être heureux. Mais bon, Le travail, oui. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des trois fondamentaux du bonheur. L'amour, la santé et le travail. Et dans le travail, je rajouterai un travail qu'on aime. Parce que si vous allez tous les jours à un boulot que vous n'aimez pas, vous ne serez pas heureux. Et malheureusement, c'est le drame de beaucoup d'êtres humains qui n'ont pas de travail qui les épanouisse. Et ça, je pense que c'est un drame. Puisqu'effectivement, vous avez raison, le travail, c'est une source fondamentale d'épanouissement humain. On a besoin d'une activité qui nous épanouisse et qui nous permette à la fois par notre cœur, notre corps, notre esprit, d'être dans l'action. Et une action qui nourrisse toutes les dimensions de notre être. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a des travaux, il y a des métiers qui correspondent à chacun. Et quelqu'un qui est fait pour un travail manuel, s'il est dans un travail intellectuel, il sera très malheureux. Et vice-versa. Donc il est essentiel, comme je le disais tout à l'heure, de discerner quel type d'activité me convient en tant qu'individu. Et donc le bonheur, il est très subjectif, parce qu'il est lié à ma singularité. Moi, en tant qu'individu unique, qu'est-ce qui me convient comme type d'activité pour m'épanouir ? C'est pour ça que je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre aux enfants à discerner ce pourquoi ils sont faits. Quel type de travail peut les épanouir ?
C'est un peu une question de théologie. Est-ce que vous pensez, comme Xavier Thévenot, que la liturgie nous fait comprendre que la sanctification est tout le contraire de la quête d'absolu ?
J'ai rien compris à la question. Je n'ai pas l'intelligence théologique de Xavier Thévenot, j'en suis désolé. Vous lui demandez un théologien. Peut-être une dernière question, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, comme il est tard, si vous voulez que ça se prolonge un peu plus, ou je demande au maître des lieux. À moi, ça m'est complètement égal, je pourrais rester toute la nuit. Mais c'est pour vous. Donc je ne sais pas du tout si vous voulez qu'on reste encore 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Alors, on laisse encore une ou deux questions.
Du coup, j'en profite. Je vous ai vu dans une émission dire que vous préfériez dire que vous étiez agnostique plutôt que athée ou croyant.
Ça va non, j'ai pas dit ça. J'ai dit je suis un croyant agnostique.
Si vous pouvez préciser, peut-être.
Alors oui, ben ça c'est utile. Hein. Je suis un croyant parce que je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Je pense que la vie est une énigme qu'on n'a absolument pas compris, et je suis tout sauf matérialiste. Vous l'avez compris, je crois en l'immortalité de l'âme, je pense qu'il existe une force supérieure, une intelligence supérieure qu'on appelle Dieu, mais qui n'est pas du tout forcément le Dieu de la Bible. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, je crois une forme de transcendance. Dans ce sens-là, je suis croyant, mais agnostique parce que je ne sais pas ce que c'est. Agnostique, c'est-à-dire celui qui n'a pas la connaissance. Donc, je n'ai pas la connaissance de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois qu'il y a une réalité qui nous dépasse, qu'il y a un mystère qui nous dépasse, mais je préfère me taire que de dire des conneries sur lui. C'est pour ça que je ne suis pas théologien. Bon, je vois que plusieurs personnes commencent à sortir, donc une dernière question.
Donc ce n'est pas une question, c'est simplement une conclusion. J'étais attentive à vos propos, cela m'a fait plaisir de vous entendre. Je suis joyeuse de rejoindre Sève Dijon et je vous remercie d'avoir partagé votre savoir.
Eh bien, merci infiniment. Je n'ai rien à rajouter. Merci beaucoup de votre attention. Merci de...